radio, c'est Marceau. Marceau le midi.
Le mot du jour, il ne faut pas frapper les chauffeurs du RTC. Je répète, il ne faut pas frapper les chauffeurs du RTC. Je vais m'en tenir là, 11h34. Salut, bon midi. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Pascal CV qui vient d'arriver.
Tu m'avais-tu réservé ça?
T'as-tu fessé un chauffeur du RTC en t'en venant?
Non.
Bon, c'est une bonne nouvelle.
Non,
merci.
Ni personne.
Jeff qui est là, salut.
Salut.
T'as-tu fessé un de tes anciens collègues du RTC?
Impossible. Non? J'étais superviseur du personnel chauffeur pendant un an et demi. Jamais je vais en fesser un.
Puis t'étais superviseur, donc c'est eux qui voulaient te fesser.
Oui, c'est eux qui voulaient me fesser. Ouais. Ben, tu sais, c'est comme dans n'importe quelle équipe que tu supervises. J'avais une centaine de chauffeurs dans mon équipe, fait que il y en avait, mettons, 20 qui voulaient me fesser, puis 80 qui me trouvaient smart.
Ouais. T'as-tu déjà eu un mauvais patron, Pascal?
Oui.
Ouais. Toi, Jeff?
Oui, ça m'interveut. Okay. Oui.
Mais là, on parle de compétences, on parle d'attitude ou on parle de qualifications.
Tout ça ensemble. Je classe pas ces affaires-là. Étais-tu compétent, étais-tu gentil, étais-tu suivi? Moi, c'est tout ensemble.
Tout ensemble, oui. Moi, c'était beaucoup l'attitude. Là, de.
C'était dans l'attitude?
Oui, exactement. Que on n'avait pas de fit dans notre attitude.
Parce qu'il y en a des très compétents avec une attitude de merde, puis il y en a...
Des incompétents avec une belle attitude.
Ouais. Ouais. Mais souvent, ces gens-là, pour vrai, l'attitude, mettons, le laisser croire que tu es qualifié pour un poste, là, c'est tellement populaire. Ça.
Ouais. Ça, c'est le syndrome de Peters. Là. Des fois, plus tu montes dans l'entreprise, à un moment donné, tu vas pogner le mur, puis le step que tu ne seras pas capable de prendre. Mais j'ai toujours été chanceux pour ce qui est des patrons. Fait que, Jeff... On aurait peut-être pu être mon patron dans la vie.
Ah oui, peut-être.
Ah oui. C'est 0 degré sur Québec, une alternance de soleil-nuage pour aujourd'hui. Des averses de neige parfois fortes qui devraient débuter en après-midi. C'est dur à croire parce que c'est du soleil actuellement au-dessus de la capitale nationale.
Et si tu savais comment ils ventent, toi, t'es enfermé, là?
C'est venteux, un genre de... Quoi, des petits vents à 70 km/h, de ce qu'on me dit?
Non, mais je me suis vraiment dit, ben voyons donc, au moins 4 fois de ma voiture à l'entrée dans l'établissement.
Oui.
Tu réagis pas de même, d'habitude, ils ventent. Tu fais « Ah, ils ventent ». Là, voyons, là. Tu dis, oh, tu peux perdre quelque chose aujourd'hui. Habillez-vous chaudement, attachez tous vos manteaux.
Tu vas-tu être au tableau d'honneur des garagistes pendant leur...
Pour rire de leur clientèle.
Pendant leur party de Noël cette année,
probablement que je pourrais être le numéro un dans un des garages.
T'as pas entendu ça, toi, Jeff, hein?
Ben oui.
Pascal CV, qui avait une lumière allumée dans son dash, en bon français, appelle le garagiste en disant « J'ai peur que mon char explose ». Pour finalement se faire dire, madame, vous avez une lumière de brûler, ça vous a coûté 75 cents, sacrez votre candidat.
Payez-le même pas. C'est 95 cents en passant, mais. Ils m'ont même pas fait
le 20 cents fait toute la différence.
Mais salut au garage Multitech, je veux les saluer.
C'est pas un Italien d'Italie qui t'aurait aidé sur celle-là.
Hein? Non.
Non.
Pourquoi?
C'est, parce qu'il est trop loin. Puis ils connaissent pas ces gens-là.
Ah,
mais,
okay. Ben oui, Yannick.
Ça prend un chum garagiste québécois.
OK. Mais en tout cas, j'aurais du fun. Parce qu'à chaque fois que je vais au garage, je les trouve donc bien le fun.
Oui.
Ces gars-là sont bons vivants.
Exact.
Ils passent pas par quatre chemins. Ils se niaisent tout le temps entre eux. Il y a tellement... Je sais pas, il y a quelque chose de le fun dans un garage.
Envoyez votre CV. Je l'ai toujours dit.
À CV.
Envoyez votre CV à Pascal CV, 418-971-1021 par texto.
Mais c'est-tu quoi, il y a quelque
votre
chose?
Âge, votre âge, votre grandeur, votre poids et votre salaire.
Et si vous êtes italien, Yannick, évidemment.
C'est moi qui fais le tri en passant.
Ah,
mais il y a quelque chose de plus ridicule que la lumière à Pascal CV.
C'est quoi?
Donner une canne de bonbons au personnel du CHU, pas comme cadeau de Noël.
Ça, ça n'a pas de bon sens.
Ça n'a pas de sens, ça?
Ça n'a pas de bon sens. Et en même temps, ça en dit long sur les dirigeants dans ces entreprises-là.
Et voilà.
Mais ils ont eu un party de Noël. T'sais, nous autres, ils ne vont pas nous donner des cadeaux. Là.
Tu parlais, t'as-tu déjà eu des mauvais patrons? Là? Parle aux employés de CHU aujourd'hui. D'après moi, ils ne sont pas très contents.
Il y a un cadeau qu'on avait reçu en entreprise à un moment donné. Là. Puis c'était la journée de la femme.
Ouais.
Tu sais, pour les droits de la femme. Ils nous avaient donné un brillant à lèvres. Il y avait comme rien d'autre.
Pour les droits de la femme.
Ouais. La journée de la femme. Ça venait de bon cœur.
C'était quoi l'entreprise?
Je vais pas là.
C'était entreprise à radio?
C'était tellement de bon cœur, mais pas tant réfléchi quand tu y penses. Là. La journée des droits de la femme donne un brillant à l'air.
Ah, ouais. J'ai peur qu'on perde Audrey. Je veux vous dire ça. Là. Je pense qu'on va perdre Audrey.
Pourquoi?
Comment ça?
Elle a l'air à détester sa vie aujourd'hui.
Ah oui, elle t'a fait une face.
Ils ont eu un souper d'équipe hier. On n'a jamais eu une autre de souper d'équipe.
Ben, il faut avoir un leadership pour ça, puis quelqu'un qui l'entretient.
C'est vrai, tu m'as jamais invité.
C'est ça.
Toutes les fois, j'ai voulu qu'on soupe, qu'on dîne ou que je t'ai invité. Non, je peux pas, je t'occuper.
Mais pourtant, je soupe avec Jeff régulièrement.
Régulièrement.
Pas courage, je comprends.
Chez Gérard.
Oui, exact.
Des ailes de poulet.
Mais
Audrey, un super équipe hier, puis elle est décourageuse.
C'est ça, on me dit.
Qu'est-ce qui se passe
Audrey,
au sein de l'équipe?
De l'eau et du sel. Tu peux acheter des trucs à la pharmacie. Électrolytes, oui.
Des pédialytres, les pops, là. Ouais. Super.
Je sais pas de quoi tu vas avoir l'air avec Denis tantôt, là, mais...
Vous avez tant bu que ça hier, à trois? Non,
j'ai-tu un micro, là?
Ouais, c'est vrai qu'elle a sa face de maganée.
Je suis vraiment cassée aujourd'hui.
T'es hangover?
Hey, ben ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé.
Sa crème de menthe?
Ben non, mais on a... La blonde à Denis est une mixologue exceptionnelle.
La seule qualité de Denis, c'est sa blonde.
C'est rare.
Audrey a dit mixologue avec les paupières qui ont fermé.
Non, mais on a bien mangé. Elle nous a fait goûter à toutes sortes d'affaires. Elle est bonne. Et... Puis ça se passait bien hier. Je me suis couchée, j'étais bien. Tout allait bien, tu sais. J'étais pas comme j'ai bu à soir.
T'étais dans l'euphorie.
Mais là, je me suis levée ce matin, puis j'étais comme... J'ai-tu manqué un bout dans le fond, puis j'ai bu comme 8 fois plus que je pensais?
T'as-tu dormi chez Denis?
Non, j'ai pas dormi chez Denis. Fait que je suis comme bien... J'ai mal à la tête, comme si...
Tu sens pas que t'as fait d'excès
non,
ou autre?
Non, pas en
mais
tout.
Mais tu as des grosses semaines, ces temps-ci.
Ben, c'est peut-être... J'écoute, je
sais pas. As-tu bu assez d'eau? Puis l'autre affaire, c'est moins tu bois, plus ça fait.
Je pense que j'ai pas assez mangé dans la journée d'hier, puis j'ai pas bu assez d'eau. Je pense que c'est juste ça, parce que quand je dis que j'ai pas tant bu, là, ouais. C'est au point où j'ai été capable de prendre mon auto, là. J'ai bu en début de soirée, mais je veux dire, je suis retournée chez nous à 11h30. J'étais bien correct, là.
Ouais.
Mais à matin, quand je me suis levée, là...
T'as pas fait cette chauffeur du RTC?
Promis.
C'est pas elle.
C'est pas moi.
J'ai deux théories.
Fait que non, je sais pas ce qui se passe, là, mais tabarnouche!
J'ai mal à la vie pour toi, là.
Ouais, j'ai plus d'armes. Si jamais vous la croisez, faites juste dire qu'elle revienne. J'en ai besoin pour finir la semaine.
Non, mais une chose est sûre, c'est l'âge.
C'est l'âge.
Ah, mais c'est ça, je viens. Okay,
mais Audrey approche la trentaine.
Ah, oui.
Exact.
Mais je la rattrape, là.
On rit, là, mais pour vrai, moi, des fois, deux coupes de vin le lendemain, je le sens. Là. On parle de deux coupes de vin, puis souvent, si je sais que je vais le sentir, ça va être du blanc et pas du rouge, que le rouge est pire.
Hier, exactement.
J'allais dans une ouverture de restaurant, un nouveau restaurant qui ouvre sur Grande Allée, puis je me suis dit, hey, c'est-tu quoi? Ça va être deux coupes max parce que ça me tente pas si jamais demain mon corps il se dit oh, non moi
plus 20 ans non, Pascal.
Mais c'est quoi ans. C'est le vin blanc ou le vin rouge qui vous fait ça?
Pire le rouge est pire. Mais le blanc arrive aussi des
ça,
fois.
Ça peux-tu dépendre là, tu sais qu'il y a comme un truc qu'ils mettent dedans là, le vin rouge
sulfite.
Là, les sulfites ça peut-tu dépendre de ça?
J'ai tout essayé, sulfite pas de sulfite, moins de sucre, bio, minéral et salin.
Ça
change. Bonne chance pour les fêtes les filles.
Ouais, mais moi je pense que le party de Noël demain soir de staff là, moi tranquille, je vais boire de la Tito Perrier là, puis ben la vie va être belle.
Sans excès.
Ça
mais...
là, wow. Ça arrive toujours le lendemain. T'es comme
vrai.
Entre deux.
C'est vrai.
Là t'as eu un souper d'équipe. Là tu dis un crime, je me lève pas que. Fait que là, vendredi, là...
Plus jamais.
Oublie ça, le partenaire. Je vais être full tranquille.
Ouais.
Une fois que le party va être pogné vendredi, penses-tu que Pinchot va être tranquille?
Ouais, on va mettre du Cotton
Eye Joe. C'est ça. Hey, oublie ça.
On me dit qu'Audrey était déjà de mauvaise humeur hier. Il y a des sources qui nous...
Ah oui, mais attends, hier, c'était pas de ma faute, j'étais de mauvaise humeur. Là.
Comment ça, c'était de la faute de qui?
Ta faute à Denis.
Ah oui, mais là, ton encore? Humeur, c'est ton humeur.
Oui, non, mais attends, hier, on m'a cherché. Là, on m'a travaillé une heure avant de rentrer en
ordre. Ah ouais? Comment qu'on a fait ça?
De façon consciente ou inconsciente?
De façon très consciente.
Ah, c'est pire, ça. Oh,
ouais, non. Denis gossait, il aimait ça. Pascal!
Audrey!
Tu sais, quand tu te fais appeler, là...
Enchantée.
Ma belle.
Ouais.
Mais tu sais, de façon un peu niaiseuse, là,
hey,
du genre...
ma belle!
Non, mais comme, ça va être beau, ma belle.
Ouais, OK, ouais.
Tu comprends un peu comme... C'est parce que t'as oublié mes feuilles, ma belle, manque-tu quelque chose?
Mais voyons, Denis peut pas avoir
ça. Tu comprends un
ça.
Peu? Non, mais il aimait ça, là, il pesait sur le piton. Là. Moi, il n'y a rien qui m'insulte plus que ça. Là. Hier, j'avais le feu derrière. Là. Et là, tout le show. Hey, c'est parce que les rideaux, t'es pas baissé du bon bord, ma belle. Hé, hey,
On est-tu à une émission
de
Jeannette Bertrand?
On parle, t'es-tu Colette? Elle s'appelait-tu Colette, la fille qui était autour?
Sérieux, votez pour deux filles le pas matin, là, puis je vous jure qu'on rentre en onde.
Avant de poigner une heure, on va vous laisser, mais vous souhaitez un bon midi.
On est ensemble la semaine prochaine.
C'est vrai, on en rejasera.
Soyez là dans l'open mic.
Envoyez des bonjours, ma belle, au 418-971-1021. Elle va être très contente.
Bonjour, ma belle Audrey.
Jeff, on va
dire. Il y a juste en haut du micro-ondes, si jamais.
Bye.
Bon, tu vas-tu te rendre?
Ouais, j'essaie tout de même.
En tout cas, c'est pas de redire mixologue, on voit que c'est trop tough.
OK, Jeff, on va travailler un peu. Va-t-il avoir une police du feu à Québec?
Ben, il va y avoir une, comme Max Larouche l'a appelé ce matin, une poilisse.
Une poilisse.
Ben
les
oui.
Poils à bois.
Ben, c'est parce que je te mets dans le contexte, puis je te parle d'échéancier. L'an passé, on a. Passait un règlement qu'il y avait une interdiction d'installation des foyers décoratifs. Donc, depuis l'an passé, une maison qui veut se faire installer un foyer décoratif n'a pas le droit. Il y a eu également une restriction.
Excusez-moi, là. Foyer décoratif, on va se faire poser la question comme à chaque
fois. T'as raison. Foyer décoratif, c'est pas un poêle qui va servir à chauffer ta maison. C'est un foyer qui est là. Dégage un peu de chaleur. Tu le pars le samedi soir quand t'as un petit repas.
Ça, j'ai pas le droit de finir
ça. Bûche ou pas bûche? Propane, pas propane? Électrique,
seulement,
électrique?
On parle seulement avec chauffage à bois. Voilà. Donc, bûche. Fait que t'as plus le droit de t'en faire installer. T'auras plus le droit de l'utiliser à partir de 2030.
Même si je l'ai acheté.
Même si tu l'as acheté. Même s'il est installé. Exactement.
Il n'y a pas de clause grand-père.
Il n'y a pas de clause grand-père pour ça. Pour les poêles à bois, depuis l'an passé, on demande à ce que les poêles à bois soient certifiés EPA parce que les poêles à bois certifiés EPA produisent seulement 2,5 grammes de particules par heure. Et ça, normalement, si tu as un poêle à bois que tu as installé depuis 2009, il est déjà certifié, tu n'as pas de problème avec ça.
Si tu as une cheminée en brique, là.
Oui.
Puis il n'y a pas de filtre, là. T'as-tu encore le droit? T'as-tu une clause grand-père pour ces foyers-là?
Ben, ta cheminée.
Parce qu'il y a encore des maisons là, qui ont été bâties dans les années 50-60 qui ont ce type de foyer-là.
Mais ça va dépendre c'est quoi ton poêle à l'intérieur de ta cheminée. Parce que ça existe, un poêle comme ça qui va être à l'intérieur de la cheminée qui va être certifié EPA.
Moi, en Beauce, là, c'était un poêle là, qui avait été fait là. C'est du ciment, de la roche et tout ça. Il avait été fait là. Je veux dire, je peux pas te déplacer ça. Là. Ce qu'on a fait, c'est celui d'en haut, parce qu'on en avait deux. Celui d'en haut, on l'a condamné parce qu'on l'utilisait jamais. Puis il commençait à être magané. Puis on craignait un peu pour nos vies. Puis celui d'en bas, c'était un poêle qui était là depuis la construction de la maison en 1970.
Bien là, si tu te réserves, normalement, il va falloir que tu fasses des modifications pour qu'il atteigne la certification.
Ils vont savoir ça comment si j'atteins pas la certification?
Bien, dans le fond, la façon de procéder, c'est que les gens doivent inscrire le fait qu'ils ont un poêle à bois. Présentement, il y a 14 100 personnes qui se sont déclarées. Dans le recensement que le CIUS a fait avec la plateforme Centris sur les maisons dans la ville de Québec, il y aurait 28 000 poêles à bois. Donc, on est à peu près rendu à la moitié de recensés. Sur cette moitié recensée-là, il y en a à peu près la moitié qui n'était pas certifiée. Et là, les gens ont le droit à une subvention de 1 000 pour aller, autrement dit, se munir d'un nouveau poêle. Et il y en a déjà plus de 600 là, qui l'ont pris. Puis cette subvention-là est toujours possible là, d'avoir, là, autrement dit.
OK. On a de l'audio sur ça?
Yes, on a de l'audio sur ça parce que justement, on parle de la police des foyers. Mathieu Albert, le directeur de la division de la Ville de Québec, prévention et contrôle environnemental, nous dit « Ben, ça sera pas une police, mais t'sais, quand tu l'écoutes, tu comprends qu'il va avoir beaucoup plus de répression faite à compter de cette année. »
Leur expliquer la situation et les différents éléments du règlement pour d'abord les inciter à faire leur déclaration si c'est pas le cas, parce que si la déclaration est faite, ils ont reçu une communication directement sur leur adresse courriel et normalement ils sont informés au bon moment adéquatement. Et évidemment, encore une fois, si on voit qu'il y a aucune collaboration, on aura l'option d'émettre un constat d'infraction, mais je le répète, on veut bien informer, on veut bien communiquer, et en aucun cas, on se voit comme une police des foyers, là, en aucun cas.
Fait que dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est
qu'il n'y a pas de police, mais il y a des amendes.
Ben, c'est ça. Fait que tu comprends qu'il y a une police. C'est pour ça que moi, je dis, il va y avoir une police des foyers.
Ah, ces gens-là ont tendance à oublier pour qui ils travaillent.
Hein.
Ouais. Ils ont l'impression, eux autres, qu'ils sont là, puis ils peuvent nous insulter, mais c'est nous qui payons leur salaire. Il faudrait qu'ils s'en souviennent.
Mais la question se pose de savoir s'ils sont rendus à se croire eux-mêmes.
Ben, ils se croient eux-mêmes, nécessairement. Ouais. Là.
Fait que dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est que là, ils ont recensé les endroits où il y a des poêles à bois. Donc, ils vont surveiller ces endroits-là. Les gens se sont manifestés comme de quoi ils ont un poêle certifié ou sont dans les démarches pour l'avoir. Et puis, ben, ils vont aller justement informer les gens qui n'ont pas fait la démarche en laissant un flyer sur ta poignée de porte que tu te dois de faire la démarche. Puis si tu n'as pas fait la démarche, ben, on va aller te revoir puis on va te dire, ben là, il faut que tu fasses la démarche, sinon tu vas avoir une amende. Puis si tu le fais pas, ben tu vas avoir l'amende qui vient avec.
Les gens que je tue quand je fais un feu de foyer, là, C'est, ouais. C'est qui, hein? Est-ce qu'ils l'ont déterminé, là, la personne qui meurt?
Ben moi, c'est là-dessus mon bémol, puis t'as le même bémol que moi. T'es, parce que là, hier, on nous présente des trucs disant, bon, les foyers de Poêle-à-Bois, c'est 2000 tonnes de particules dans l'air à chaque hiver. C'est encore plus élevé que le transport routier dans des quartiers. Puis on nous présente ça, puis honnêtement, t'es, ça, t'es... C'est de la science, tu peux pas vraiment venir contrecarrer ça. Mais moi. Mais
est-ce que c'est des gens qui sont en fin de vie? Tu sais, en passant, toutes les vies sont importantes à mes yeux à moi, mais c'est-tu des gens qui, anyway, allaient mourir comme trois heures plus tard?
Ben, c'est ça, c'est que c'est pas spécifié. Ah. Puis là, ben, on nous dit, OK, il y a 269 décès dans la ville de Québec par année en raison de la mauvaise qualité de l'air, et les poêles à bois sont un facteur de mauvaise qualité de l'air. Donc, voici pourquoi on le combat. Puis si on avait juste des poêles certifiées, on viendrait diminuer les émanations de 42 %. Donc, on passera à 160 décès. Mais tu sais, je trouve que la règle de 3 est trop simpliste, là, à mon goût, là, pour dire que ça va vraiment venir sauver 109 vies.
Ouais, c'est des grosses patentes, là, comme on a vu pendant le temps de la pandémie. C'est des histoires de personnes qui jasent puis qui exagèrent constamment. Mais admettons que je fais un feu à l'extérieur pendant le temps des fêtes, est-ce que je suis un tueur, mettons?
Non, c'est ça, mais où est-ce que je trouve ça dangereux, cette politique-là? Puis c'est ce que je disais ce matin, c'est que du côté des foyers, là, qu'on appelle décoratifs, justement, tu n'auras plus le droit d'utilisation en 2030 parce qu'il n'y en a pas présentement qui sont certifiés et qui viennent réduire, autrement dit, le nombre de particules dans l'air. Mais ça veut dire qu'à partir de 2030, je ne serai plus capable de faire un feu dehors. Parce que ces poêles-là sont pas certifiés. Ces foyers-là décoratifs sont pas certifiés.
D'après toi?
Ben, on s'en va vers là.
On s'en va vers là.
Fait que c'est ce que je trouve particulier là-dedans, parce que toi, on s'entend, là, t'sais.
Puis c'est qui va venir surveiller si je fais un feu de foyer à l'extérieur? C'est la police?
Ça va être la police.
On va déranger la police avec ça?
Ben, sûrement. Ton voisin va dire, hey, lui, fait
dénoncer votre voisin.
Ben, c'est ça. Fait que c'est ça qui fait pas de sens.
Le monde est fou, sacrément.
Ben oui, dans ce sens-là, oui. Puis c'est pour ça que Patrick Paquette, là, si veut faire jouer l'extrait, lui, il dit, ben, il y a des solutions de rechange, puis les foyers d'ambiance, honnêtement, on devrait pas toucher à ça.
Moi, si on me dit que votre foyer d'ambiance est extrêmement polluant, là, de plus s'en servir, on est d'accord, nous, Équipe Priorité Québec, avec ça. Mais là, on a des options. Pour la première fois, on a des options qui se proposent à nous de remplacement. On a l'impression que cette administration-là, ils sont bornés. Ils ferment les yeux et ils sont pas ouverts.
Parmi les options de remplacement, il y a un produit présentement qui existe aux États-Unis qui fait seulement 4,5 grammes de particules à l'heure, donc qui est pas mal correspondant au poêle à bois certifié.
On parle d'une bûche ou du poêle en question?
Oui, on parle toujours des dans des le fond. Ouais, on parle de ce qui est dans le poêle exactement. Okay. Puis, il y a une entreprise de Saint-Augustin qui est en train de développer un produit similaire. Fait que ce que Priorité Québec dit, puis je trouve qu'ils ont raison, ils disent « Hey, attendez, là, arrêtez d'interdire les foyers d'ambiance, ça s'en vient ».
Qu'il y ait des solutions.
Ça s'en vient, ces solutions-là, comme il est arrivé en 2009 avec les poêles à bois certifiés EPA. Donc, mettons pas tout de suite la hache dans les foyers d'ambiance. Je suis très d'accord avec eux.
Il y en a qui poussent un peu leur réflexion en disant « Ah, mais là, nos fumoirs, nos barbecues de ce monde,
ah, ça va
la
venir.
Cuisine sur un feu, c'est des choses qu'on va être aussi obligé de cesser en ville. »
Si vous les écoutez, ça va venir. C'est clair que ça va venir. T'as-tu enregistré ton chat, toi?
Non, ben j'ai pas de chat.
Denis Gravel a deux chats, il a toujours pas enregistré.
En non? Ça fait partie de 90% de la population.
La date obligatoire pour enregistrer son foyer, c'est encore le 1er avril? Moi, je suis encore marqué, ça me fait rire, poisson d'avril, le 1er avril.
Ben, dans les
mémoire, c'est ça.
Dans l'échéancier qu'on parle, c'est que le 1er septembre 2026, il va y avoir une interdiction d'utilisation des poêles non certifiées. Donc, nécessairement, il faut que tu l'enregistres avant le 1er septembre 2026 pour après ça aller chercher la subvention puis faire le remplacement.
Pat qui dit, moi, je vais faire un feu de foyer, mais avec mes vieux tailleurs de char pour riposter contre la Ville de Québec. À ne pas faire.
Non, à ne pas faire, en effet.
OK. Hey, sinon, le Canadien de Montréal joue quand? C'est ce soir?
Canadien de Montréal, ce soir, contre les Pingouins de Pittsburgh.
On s'attend à quoi comme match?
Qui est dans la ville. Je m'attends à un bon match parce que c'est deux équipes qui vont quand même bien par les temps qui courent. Les Pingouins avaient eu un début de saison extrêmement difficile et là, ils se replacent tranquillement. Ils sont à 12 victoires et 14 revers. Le Canadien, 11 et 14. Premier match entre les deux formations qui s'était déroulé à Montréal, eh bien, ça était terminé 6-5 pour les Pingouins de Pittsburgh. On avait eu un festival offensif. Je m'attends à un bon match de hockey. Je trouve que le Canadien est dynamique avec le retour de Patrick Laine en offensive. Ça l'a donné un second souffle, justement, à la formation. Ça permet d'avoir deux trios plus équilibrés, les premiers et deuxième trio. Puis du côté des Pingouins, ben l'homme qui refuse de mourir, Sidney Crosby, est encore exceptionnel en ce début de saison. 27 points en 30 matchs. 8 buts, Malkin a 25 points. Donc, les deux vétérans qui font encore la job.
Crosby, on peut encore l'appeler Monsieur Hockey. Qui va gagner ça, Pascal, ce soir? Entre les Pingouins de Pittsburgh et le Canadien de Montréal.
Ouais, pour votre bonheur, je veux dire les Canadiens, je travaille avec toi demain. Mais...
Merci.
Est-ce que je crois, je sais pas.
Ah, il va-tu à 3-1, 3-2?
Nostradamus Pascal avec le hockey.
Vas-y, va.
3-2.
3-2? Uh-huh. J'y vais avec 3-2, moi aussi.
4-3, Pingouins, capitaine Canada Crosby va marquer le but gagnant.
Ouais. Dégage, le traître. Dégage.
Mauvais.
Merci, mon Jeff.
Salut!
Salut, bye-bye. Puis va pas battre aucun chauffeur du RTC.
Impossible.
Merci, merci, c'est gentil. Est-ce que la notice a été faite à tous les employés de la station? C'est important de pas le faire.
Ah, ben écoute, tu le dis régulièrement. Nous aussi, on le dit régulièrement ce matin. Il faut prendre soin de nos chauffeurs d'autobus.
On vous aime.
Yes.
Pour de vrai, nous autres.
Pour de vrai, oui, oui, oui.
Marceau le midi. Avec Gravel et Marceau.
Le mot du jour, la phrase du jour, il ne faut jamais attaquer un chauffeur du RTC. Sachez-le.
J'ai commencé le show.
Denis Gravel, salut!
Salut!
Content de te voir.
Faites pas ça.
Qu'est-ce que t'as fait hier soir, toi?
Je me suis pas battu avec personne.
T'as scrappé ma Audrey?
Ouais, elle a de l'air magané un petit peu. Hein.
Elle est défaite complètement.
Ben voyons donc. Pourtant, ça a pas été une soirée qui a fini tard. Là.
De ce que je comprends, c'est la seule qualité que tu as, c'est elle qui l'a fait boire. C'est ce qu'on m'a dit.
C'est pas faux, c'est pas faux. Ah non, ça a été une belle soirée. On a reçu les filles hier, puis ma blonde aime se recevoir. Puis mettons que les opportunités sont pas nombreuses. Premièrement, parce qu'on travaille comme des cons. Puis deuxièmement, parce que moi, juste à quatre dans la maison, je trouve ça bruyant et chargé. Fait que...
Tes deux gars étaient-tu là?
Oui, mes gars étaient là. Ils étaient contents.
Content.
Oh oui, tout le monde avait du fun.
Vous étiez, vous étiez une belle gang.
Ça a été une belle soirée.
C'est qui a initié ça?
Ça fait un bout, moi, que je veux que les filles viennent chez nous parce que la seule fois que les filles sont venues chez nous, c'est quand on a rencontré Audrey pour la première fois.
Avant de commencer à travailler ensemble.
Avant de commencer à travailler ensemble. On voulait jaser pour voir si on était capable de connecter. Elle est arrivée, on n'était pas juste les trois, il y avait notre boss de l'époque, Claude-Éric, puis elle était excessivement nerveuse. Nous autres, on était curieux, puis en même temps, un petit peu sa défensive, puis un petit peu protecteur. Fait que comme première date...
Je me demande pourquoi il était stressé, hein?
Ben là...
Ça devait pas se sentir vraiment le non-verbal, l'aura, toute l'énergie.
Je pense que c'est ça. Puis c'était un peu sa passe ou sa casse des deux bords, tu sais. Fait que ça a été une rencontre particulière, puis c'est ça, en s'en reparlant après ça... dans les années d'après, on se disait « Tabarnouche, c'est la seule fois qu'Audrey est venue chez nous. » Dit « Faut faire de quoi? » Faut faire de quoi, là, ça a été là pendant un an et demi, là, à peu près, là, pour finalement arriver là. La façon de concrétiser une affaire de même avec Véro qui procrastine, avec Audrey qui est tout le temps débordée, puis moi qui n'a pas la poussée nécessaire pour concrétiser une rencontre, j'ai mis ça dans les mains de ma blonde.
Voilà. Il y a parti
une conversation. Ça prend et date. Merci, bonsoir. Le menu était fait. Les drinks étaient sortis.
Oh,
et là, grâce à la mixologue, j'ai eu une Audrey Scrap ce matin. Je sais pas comment elle va être dans le retour tantôt, mais ça risque d'être très, très drôle.
Ah bon, elle est pas si tempée.
Ouais. Ben oui. Puis on a commencé à l'appeler ma belle. Je pense qu'elle l'apprécie pas.
Ça, on va laisser ça dans la journée d'hier, je pense.
Surtout pas cet après-midi, je pense.
Ouais. J'ai trop abusé. Je pense que j'ai trop abusé.
T'en prenais vraiment plaisir, là.
Donald Trump, Pascal, qui a été désigné personnalité de l'année 2024 par le Time.
On est-tu surpris?
Les gens sont en beau fusil, mais effectivement, s'il y en a un qui devait être sur la une du Time, c'est Donald Trump.
Pourquoi les gens sont en beau fusil? Est-ce qu'ils comprennent mal comment
mal
ça marche?
Ouais.
Ils comprennent pas c'est quoi la personnalité de l'année.
La personnalité de l'année, c'est pas ton joueur préféré de ton équipe préférée. C'est la personne qui a marqué le plus l'actualité ou qui a influencé le plus le cours des choses pour le meilleur ou pour le pire. Ça a déjà été Adolf Hitler. Ça a déjà été Vladimir Poutine. Je prends ces exemples-là pas pour faire un comparable avec Donald Trump, mais pour vous montrer... Le but de l'exercice, c'est pas un concours de popularité, c'est un concours d'impact, positif ou négatif. Ça, c'est dans le cours de tous et chacun.
Et c'est depuis 1927.
Ouais, c'est une
tradition.
Est-ce qu'il aurait pu avoir un autre nom?
Cette année, tabarnouche, je regardais les autres mises en nomination, puis honnêtement, le gars a survécu à deux tentatives d'assassinat, jusqu'à preuve du contraire. Il a été accusé et il retourne à la Maison-Blanche. C'est dur d'avoir un plus gros tour de force que ça. J'aime pas Donald Trump, mais il retourne à la Maison-Blanche. Ils ont voté pour, je veux dire. C'est l'histoire de l'année.
Il a figé le monde entier aussi. On en parlait partout. Chaque pays ou presque avait son mot à dire sur cette élection-là. De faire des vagues à ce point, c'est sûr que
écoute,
c'était le candidat.
Tu vois que déjà, il a affiché ses couleurs sur comment il allait négocier ses affaires. Puis on peut critiquer la méthode. Mais au niveau de l'efficacité, hein, t'es obligé de voir qu'il y a des résultats. Hein?
Ouais. Les gens déchirent leur chemise. Mais ben oui, voyons. T'sais, je veux dire, il a poussé un peu le bouchon en disant « On va vous mettre un 25% pour ce qui est des importations. Si vous ne faites pas attention au fentanyl qui rentre chez nous, si vous ne faites pas attention à l'immigration illégale qui rentre chez nous. » Puis visiblement, il a stressé tellement tout le monde au Canada que là, tout le monde a des projets pour sécuriser la frontière. Oui. Donc, il a réussi en émettant cette phrase-là, « On va vous mettre une augmentation de 25% à faire en sorte que nos policiers fassent leur job.
Qui aurait été homme de l'année selon le Time Magazine si Kamala Harris avait gagné l'élection présidentielle? Ça serait Kamala Harris.
T'as l'impression?
Ah oh, ouais. Oui, absolument. Absolument, parce que ça aurait été l'histoire de l'année. Une première femme présidente des États-Unis qui était même pas la candidate démocrate au début de l'année. Je pense
noir
que l'histoire
aussi
se serait écrite d'elle-même. Là, puis regarde dans le reste du monde ce qui s'est passé. En France, les élus collent pas. On est au beau fixe dans les endroits où ça brasse et ainsi de suite. Y a-tu quelqu'un qui a fait de grands pas pour la paix ou pour autre chose? Ça peut pas être Patrick Lainé, là. C'est
Donald Trump.
Mais c'est souvent ceux qui sont élus lors d'élections américaines. Si vous regardez là, depuis 1927, des fois, c'est des groupes. Des fois, les soldats américains sont revenus deux, trois fois, si je ne me trompe pas, là, à la une du Times. Barack Obama, quand il avait été élu premier afro-américain à
normal,
être président,
hein? Ben oui.
C'est souvent ceux qui sont élus.
Es-tu d'accord avec Justin Trudeau sur ce qu'il a dit il y a de ça deux semaines, comme quoi c'était pas supposé se passer comme ça, puis que les Américains ont décidé de ne pas élire une femme noire? T'es-tu d'accord avec ce qu'il mentionne? Parce que, tu sais, j'écoutais la revue de Paul Arcand un matin là, sur la presse, puis, tu sais, il disait que les États-Unis sont encore, ils ont encore un fond de misogynie et de racisme. Je veux dire, on a quand même élu Barack Obama, là, qui était un très bon président des États-Unis. Est-ce que Kamala Harris n'a pas été élue parce que c'était une femme? Je pense pas.
Puis, mais quand on raisonne comme ça, on voit les États-Unis comme une espèce de gros bloc monolithique,
ben
alors
oui.
que c'est un mélange de culture, d'influence. Chaque État a sa couleur, littéralement. Il y a un paquet de raisons pour lesquelles Donald Trump a été élu président. Essayer d'en trouver une, c'est faire une généralisation qui est beaucoup trop grande.
Mais de dire que les États-Unis sont misogynes et racistes parce que c'est pas Kamala Harris qui a passé, je trouve ça particulier, entre autres pour Paul Arcand.
Je trouve ça réducteur. Ouais. Comme raisonnement, je trouve ça réducteur.
À moins qu'ils veulent plaire à sa clientèle à lui, peut-être, là. T'sais, pour qu'ils prennent la peine de le dire et de le spécifier, même si quelqu'un qui suit l'actualité trouve que ça n'a pas de bon sens.
J'espère qu'à l'âge qu'il est rendu, il dit ce qu'il pense, là, je veux dire.
Mais je veux le défendre dans votre conversation, parce que Paul Arcand, souvent, va être capable de s'attaquer autant à la gauche, à la droite, à ce qui se passe. Quand tu écoutes ses revues de presse là, régulièrement ou autre, depuis des années, c'est vraiment quelqu'un qui a été capable de prendre la parole, surtout dans les dernières années de sa carrière.
Ouais, mais de dire que les États-Unis sont misogynes et racistes parce qu'ils n'ont pas élu Kamala Harris, c'est stupide.
Non, c'est parce qu'il s'adresse à sa crowd. Je suis pas sûr de sa crowd. Non, mais je sors du propos. Je parle de sa crowd.
Je peux difficilement juger Paul Arcand. Je l'ai toujours trouvé d'un ennui mortel, fait que je ne l'ai jamais beaucoup écouté. Mmh. Ouais, c'est ça. Mmh.
Mais Justin Trudeau qui s'en va, pratiquement insulter Donald Trump aussi. Là, Elon Musk s'en mêle. Je trouve que Musk est beaucoup trop présent en politique américaine, soit dit en passant.
Elon Musk n'est pas un élu. Il peut dire ce qu'il veut de la façon qu'il veut, mais c'est à nous autres de juste balayer ça du revers de la main.
Il agit comme s'il était vice-président des États-Unis.
Oui, puis ça serait peut-être bien qu'un élu le remette à sa place, là, mais...
C'est pas Trump qui va le faire.
C'est probablement pas Donald Trump qui va faire ça, effectivement.
Surtout avec sa valeur aujourd'hui à Elon Musk. Là, c'est l'homme le plus riche de la Terre, puis probablement pour les prochaines centaines d'années. Là. Mais lui qui traite Justin Trudeau d'insupportable abruti.
C'est incroyable. Il a de l'air d'un gars qui pense qu'il est cool pour la première fois de sa vie, là, puis qui perd le contrôle un peu. Là. Kanye West s'est viré de même pendant une couple d'années. Là. Je pense qu'il y a un fond de maladie mentale là-dedans. Là. Les grands génies, des fois, sont jamais loin. Là. Mais même avec Elon Musk, là, je pense, tu le vois, des fois, Il est incontrôlable. Il n'est pas capable de contrôler son corps. Il a pris beaucoup de drogue dans les dernières années.
Mais quand
tu
as tout, là, comme ces hommes-là, mettons, ouais. On dirait que tu te permets aussi.
Ben, écoute, t'as une vie d'extraterrestre. Ouais, ouais. On peut pas comprendre ce qui se passe d'une tête comme celle d'Elon Musk. Mais moi, je leur dis, je veux dire, c'est pas un élu. Il peut dire les choses comme il veut, de la façon qu'il veut. Puis après ça, ben, le monde réagiront à la bourse. J'imagine que c'est le seul langage qu'il comprend bien.
Mais là. C'est ça, sauf qu'il y a un impact en sacré.
Ben oui, il y a
donc
un
là,
impact.
Il agit comme le vice-président des États-Unis. Puis Trump, effectivement, ça semble faire son affaire. Mais je me pose des questions. Est-ce qu'il est beaucoup trop présent actuellement? Là?
Ben, c'est un gars qui en mène large. C'est un gars qui en a mené large pendant la campagne électorale. Lui, il a gagné ses élections, fait qu'il est probablement sur le party depuis que Donald Trump a été élu. Est-ce que dans l'entourage de Donald Trump, il y a des gens qui vont essayer d'y passer des messages, genre « c'est le fun que tu joues au fou du roi, là, mais là, tu pousses peut-être un peu ta loque. » Déjà qu'on a un président qui joue dur, avec les mots, avec les images, avec les blagues de 51e État. Et regarde, laisse-les beurrer. Beurre pas par-dessus, monsieur le président.
Les réactions particulières d'Elon Musk, ça peut venir. Je pense qu'il l'avait mentionné, qu'il était Asperger. Fait que, ça peut peut-être avoir un lien.
Écoute, c'est un mélange de paquet de choses.
Mais qu'est-ce qu'il y a à perdre? Admettons, à moins de poser un geste criminel d'aller en prison, là, cet homme-là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à perdre.
Non.
Parce qu'il ne perdra rien. Là, j'exclus le criminel, la criminalité. Mais ce gars-là, il y aura. Rien à craindre pour le reste de ses jours, à moins qu'un comportement là, judiciable. Là. Mais peu importe ce qu'il va dire, peu importe ce qu'il va faire, sa fortune est faite, son entreprise est faite. Qu'il vende, qu'il ne vende pas, il s'en fout. Qu'il perde de l'argent, il s'en fout. Il va toujours en avoir.
Dans les dossiers criminels comme les dossiers non criminels, on dirait que passer un certain niveau de fortune, de pouvoir et d'influence, tu es convaincu que tu peux faire ce que tu veux.
T'sais, l'action de Tesla augmentait à 65%, ce qui fait en sorte qu'Elon Musk, c'est le premier à avoir dépassé 400 milliards de dollars. C'est l'homme le plus riche de la planète.
Ouais. Tu à partir du moment où il a traité Trudeau de nom, où il a fait sa fortune un peu avant aussi? Y a-tu eu un pic à la bourse?
Mais t'imagines-tu du côté du fédéral, là, pour ce qui est des libéraux, à quel point les gens qui travaillent autour de Justin Trudeau doivent trouver le moment difficile? Il ne veut pas s'en aller, il s'accroche au pouvoir. T'as l'autre à côté qui apprend qu'il faut qu'elle enlève la TPS alors que tu sais, elle avait pas fait partie des discussions. Ça avait été dans le bureau de Justin Trudeau que ça a été décidé. Puis on a dit là, il va falloir que tu enlèves ça. Puis en plus, on va peut-être donner un chèque aussi. Là. Alors qu'elle, on l'engueule parce qu'elle dépense trop. T'sais.
Puis là, tu es dans un contexte où Donald Trump te rend la vie très difficile. En fait, tous les aspirants au pouvoir à Ottawa présentement sont un peu dans la main de Donald Trump, puis tout le monde fait attention, puis tout le monde veut pas trop en dire, tout le monde veut pas mettre le feu, ça place tout le monde dans une situation inconfortable. C'est le sujet sur lequel probablement Pierre Poilievre est le moins volubile, puis avec raison. Et Justin Trudeau, c'est exactement la même chose. Lui puis sa gang autour doivent se demander à partir de quel moment là on sort officiellement pour dire que la joke est plus drôle, tu sais, puis qu'on commence à montrer des dents. Est-ce qu'on peut faire ça ou on continue de jouer le rôle du petit papy que Donald Trump peut botter puis flatter puis faire des tours puis des affaires le fun? On a de l'air ticaille un peu.
Il n'y a qu'une façon de régler ça.
Ah oui?
En devenant le 51e. Hey Denis, j'ai eu le goût de te poser des questions. Pascal, j'aimerais ça que tu participes aussi. En 2020, il y a eu combien d'arrestations qui sont liées à la guerre que se livrent les groupes criminels à Québec? En 2020.
Pas okay? Des tonnes, hein?
Des guerres de gangs, là.
Ouais.
En 2020.
On va y aller pour une trentaine, une quarantaine?
Toi, tu irais avec des dizaines?
Oui.
Okay. Moi, j'aurais été avec des centaines, très honnêtement. Okay. Mettons un genre de 200.
Okay? En 2020, tu aurais été quand même avec 200?
Oui, parce que ça, ben, c'est sûr que moi, j'en connais un peu de ces gens-là. Ouais, là, ouais. Des fois, ils me transmettent de l'information. Puis, tu sais, je trouve que ça brasse. Fait que j'ai comme un biais là, qui est un peu exagéré dans ma tête.
Il était beaucoup plus actif.
Mais toi, tu me dis quelques dizaines. Moi, j'aurais dit quelques centaines. Mettons 200. Toi, t'aurais dit quoi?
J'aurais été en dizaines, moi aussi.
En dizaines aussi. C'est 37 en 2020. Mm. Des arrestations qui sont relatives aux guerres de gangs. En 2023, il y en a eu combien?
Beaucoup plus.
208. Fait qu'on passe de 37 à 208 et 2024, on est rendu à 237 individus qui ont été arrêtés liés à la violence armée.
On revient à la notion de base. Quand le crime organisé et donc tranquille, on laisse les choses aller puis on partira pas le feu. Par contre, quand le crime organisé devient désorganisé, devient violent, devient une source d'inquiétude pour le citoyen, là, les polices se réveillent un peu, puis décident, parce qu'ils n'ont pas le choix, de montrer des dents puis de faire des arrestations.
Là. Denis Turcotte, qui est le chef de police, que j'aime bien, soit dit en passant, je ne sais pas si vous l'avez vu sortir dans l'actualité il y a de ça quelques jours, mais il avait dit si les criminels pensent venir ici puis avoir tout le terrain pour eux, ils vont nous trouver sur leur chemin. Puis moi, j'aime un policier qui sort puis qui mentionne ça. Pas ce chef de police de la ville de Montréal qui n'a jamais fait ça de sa vie. Là. Moi, le nôtre qu'on a à Québec l'a fait. Je suis très content. Problème étant la masse salariale qui semble être très élevée parce que ce que Denis Turcotte a proposé aux élus, c'est un budget chiffré de près de 175 millions de dollars pour l'an prochain. Tu dis « wow, 175 millions ». Mais la masse salariale, c'est 95 % de ce budget.
Ah ouais, hey, c'est énorme.
Ben, oui, c'est très énorme. Puis je me dis, ben, y a-tu moyen des fois d'aller chercher de l'argent supplémentaire pour, je sais pas moi, des escouades? Y a-tu moyen de le faire? Est-ce qu'on peut sauver de l'argent? Moi, des policiers à Québec qui font de la circulation, ça ne me stimule pas pantoute. Mm-hmm. J'aimerais mieux un agent de sécurité à 22-23 piastres de l'heure. Les policiers, il faut qu'ils courent après les méchants. Il ne faut pas qu'ils fassent la circulation.
Est-ce qu'on devrait avoir une banque de millions qu'on utilise justement quand on veut augmenter la sécurité parce qu'il y a une guerre de gangs et ainsi de suite? On s'était bâti, là, on s'était fait un fonds là, pour le réchauffement climatique et ainsi de suite. D'ailleurs, ça fait pas le plaisir de tout le monde que le maire Marchand utilise ça pour bâtir des patinoires réfrigérées. Mais est-ce que ça serait une idée, tu sais, de se garder un fonds de manœuvre puis de l'utiliser quand, justement, les policiers ont besoin de ressources, comme ils en ont besoin actuellement pour faire autre chose que de regarder ce qui se passe dans la circulation?
Moi, je propose ça, tu sais, puis peut-être plus de descente chez des vendeurs de drogue. T'sais, pour trouver des montants d'argent substantiels, parce que tu sais comment ça fonctionne maintenant. Dans le temps, on la brûlait, cet argent-là.
Ouais.
Maintenant, on la prend, on donne une partie au corps de police versus l'autre partie qui s'en va directement au gouvernement.
On finance.
Oui, mais ça, on pourrait faire ça.
Ouais.
Tu sais, sont où les caches d'argent? Parce que ces gens-là transigent beaucoup en cash. Bon, là, ça s'en vient de plus en plus en crypto-monnaie, ça fait que ça va être compliqué tantôt. Mais s'attaquer aux vendeurs de drogue directement, en prenant directement leur argent, ça pourrait leur faire mal, puis en plus, ben, ça pourrait financer nos corps de police.
On dirait souvent qu'on essaye de tout ménager, hein, parce que tu veux pas créer de pénurie de drogue, parce qu'à l'autre bout, tu vas avoir des problématiques d'agressivité, tu vas avoir des problématiques de santé mentale, tu vas avoir des problématiques de monde qui perdent le contrôle d'eux-mêmes et ainsi de suite, qui vont être en crise. Je sais pas si ça fait partie de la réflexion policière quand on ne lutte pas vraiment contre le crime organisé, quand le crime organisé ne nous force pas à lutter contre lui, tu sais. Puis ça explique peut-être en partie pourquoi on décide de ne pas cibler tous les vendeurs qu'on peut trouver, mais d'y aller de façon peut-être plus stratégique pour pogner non pas ceux-là qui sont dans la rue, mais ceux-là qui mènent le show en haut. Écoute, je ne sais pas.
Et c'est 50 % de l'argent qui s'en va au corps policier. Quand les policiers tombent sur des caches d'argent, là, 50 % s'en va directement au corps policier.
C'est pas le club social, là.
Non. Les gars me ressent en sacrement.
Ça fait des belles games de quilles. Hein?
C'est 25 % qui s'en vont aux victimes d'actes criminels, puis l'autre 25 % s'en va au programme de prévention de la criminalité.
C'est bon, ça, c'est wise, par exemple.
Mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est de voir, OK, 175 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent pour notre service de police, mais c'est 95 % de la masse salariale. Ça veut dire qu'on part avec 95 % de la masse salariale.
Puis le reste, on n'a pas tant de budget que ça, un coup que tout le monde est payé.
C'est
là.
Ça. On n'a pas de lousse. Ouais. On n'a pas de lousse. Mais bref, très content de voir que le chef de police travaille extrêmement fort. Puis on a de bons policiers à Québec. Tu l'as souvent mentionné. Là.
On a une
Même dans ton ancienne vie radio, puis celle-ci, tu le mentionnes constamment.
On a une mentalité différente. Puis je pense qu'elle représente la mentalité différente qu'on a à Québec par rapport à Montréal. C'est pas pour rien que les manifs ont presque jamais dégénéré. Puis les quelques fois où on a perdu le contrôle, souvent c'était pas de notre faute parce qu'on nous organisait un sommet des nations sans qu'on aille demander notre avis. Ou encore, on est obligé de remonter à des Saint-Jean où les plus jeunes n'étaient même pas nés, là, je veux dire. Mais de façon générale, on a toujours passé les bons messages et laissé les bons signaux. Vous avez le droit de manifester. Il n'y a pas de problème avec le droit de manifester, mais si vous sortez de la légalité, vous avez bien beau être député à l'Assemblée nationale, on va vous passer tie-wrap. C'est correct, moi je suis très à l'aise avec ça.
je répète, ne pas frapper de chauffeur du RTC. Hey, j'ai le goût de vous parler d'un sujet qui intéresse personne, la revue de l'année de Pornhub pour ce qui est des statistiques.
Ça intéresse peut-être personne, mais moi, j'ai sorti beaucoup de feuilles pour cet après-midi.
OK, mais je vais te laisser...
C'est malade,
sérieusement. Je vais te laisser faire toutes tes feuilles après-midi. Mais les termes les plus recherchés sur Pornhub, Pascal, moi, ils m'ont jeté à terre.
Moi, ça me trouble. Je suis troublé.
Moi, j'arrive... Attends un peu, là, je vais regarder.
Ça révèle 6, 7, 8, les gens qui nous entourent, là.
11, 12, 13... 13.
13 quoi?
14, 15. 15.
Il y a des choses qu'on connaît, puis il y a des choses qui, pour moi... sans la normalité ou la sexualité, le fantasme, là, ouais. Mais il y en a
dans les termes les plus recherchés, c'est le 15e que je recherche.
C'est lequel?
Ben, je vous le dis pas.
Ah, mais le premier, moi, je t'attends.
Le premier. Ouais. Là, les auditeurs qui consomment de la porn, là, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, là, mais...
Dites-moi que c'est la curiosité qui vous a guetté.
Expliquez-moi ça. Pourquoi c'est le premier terme recherché sur Pornhub au 418-971-1021? C'est le hentai.
Ça, c'est les petits
bonhommes.
C'est
les dessins animés chinois. Ouais.
C'est la pieuvre qui te rentre dans tous les orifices, là.
Hein? Entre autres choses.
Ben, une pieuvre.
Ben, elle a beaucoup de tentacules.
Mais ça, c'est en dessin.
Oui, c'est en,
ouais, c'est parce
en animé.
Je
pas
pense.
Une vraie pieuvre.
C'est-tu sexy, ça, Pascal?
Hein?
C'est-tu sexy, ça?
Ben, ben je veux dire, je suis troublée.
OK, t'es
troublée. Mais je vais tenter une explication qu'on m'avait déjà donnée en Chine. Si tu recherches la pornographie, les parties intimes vont tout le temps être brouillées sur les engins de recherche et ainsi de suite.
OK.
Fait que ça devient une alternative aux membres. Quand on utilise des tentacules dans un scénario animé.
Fait qu'ils peuvent avoir des images de cette manière-là.
Voilà.
Ouais, mais c'est parce que là, je veux dire ça.
Le tentacule n'est pas brouillé.
C'est pas des recherches aussi. Il y en a qui sont au Québec, Canada, là,
oui,
il
mais
me semble.
C'est, ce qu'il faut comprendre aussi là-dedans, c'est que nous autres, quand on était jeunes, voir une femme nue, c'était déjà un challenge, ouais. C'était une épreuve, c'était quelque chose qui était inaccessible.
C'était juste, une page là, de magazine.
Juste avec ça, on pouvait remplir une adolescence complète d'imagination. Là, on a tout à la portée des doigts. Puis moi, ce que je vois là-dedans, quand tu vois les catégories les plus bizarres qui sont les plus recherchées, c'est que les gens s'ennuient. Ils ont tout vu. Ils ont tout scanné. Fait que dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Tu normalises de plus en plus, puis tu recherches de plus en plus d'affaires bizarres.
Tu t'es-tu rendu là?
Non.
Parce que toi et Yannick, vous dites souvent que vous avez passé en revue. Vous êtes rendu au numéro 2,
moi, Pornhub,
Pornhub
2,
version oui. 2. Toi, tu me dis même que dans les salles d'attente, à un moment donné, tu t'es rincé l'œil. Tu sais, à un moment donné, les gars, si, est-ce que c'est parce que vous êtes rendu là? Est-ce que vous êtes à la recherche? Ça, c'est une autre catégorie. Là. Okay.
Moi, j'ai un autre chum qu'on a en commun. Il aime beaucoup le vélo puis il travaille dans une autre station de radio. M'a déjà dit que pendant la pandémie, il avait fait le tour de Pornhub au complet.
Au complet.
Tellement qu'il allait par. C'était par pays après.
OK.
Fait que là, il a fait le Canada. Il m'a dit ça en nombre, fait que je peux me permettre de le dire.
C'est malade.
Il a fait la
ça.
Chine. Okay. Il a fait la Nouvelle-Zélande.
Il voyageait.
Il voyageait.
Un voyageur.
À travers Pornhub. Mais hentai, je ne sais pas, Pascal, s'il y a des gens qui nous ont écrit au 418-971-1021.
Ils ne sont pas en masse à vouloir dire que c'est eux, là.
Mais je serais curieux de connaître les raisons pour lesquelles ils vont, mais je me rallie à Denis. Tu sais, il y a des pays où les parties sont brouillées.
Ah, mais ça, Denis l'a dit, j'ai pas réagi tant que ça. Ils prennent ce qu'ils peuvent. J'en conviens, super intéressant en passant comme apport.
Ouais. Pascal...
Super intéressant comme apport par rapport à la psychologie aussi. Tu te dis, hey, tu sais, t'es habitué à certaines affaires, mais ça reste que ça me trouble.
Mais toi, tu fites dans quelle catégorie, Pascal?
Ben non,
on pourrait-tu dire MILF? 30 ans, c'est MILF?
J'ai pas d'enfant. Il faut à la base être une mère.
Pas toujours.
Pour être une MILF?
Tu pourrais peut-être avoir de l'air d'une mère.
Une MILF, dans ma tête, c'était 35-40, mais en même temps, t'as des... c'est mother.
C'est mother, c'est jeunes maman. Mamans, c'est, ouais. Oui, c'est ça.
Fait que tu fitterais dans quelle catégorie?
Ben, pas MILF, j'ai pas d'enfant.
OK. Ben, parce que les autres, c'est lesbienne. Okay. Ou... on veut pas embarquer là.
Et pourquoi tu voulais me mettre publiquement dans une catégorie?
Ben,
pendant
je sais
qu'il
pas,
y a des gens
je me pose la question. MILF, c'est qui?
Je viens inconfortable.
Moi, je me disais que les MILF, c'était des femmes d'âge mûr, mais c'est le deuxième plus recherché pour ce qui est de Pornhub.
OK.
Pinaille.
Ça, c'est
les Philippines.
Oui, c'est ça. J'ai googlé tantôt.
Je trouvais que tu y allais avec un...
les gars recherchent beaucoup les Philippines.
Ouais.
Après ça, quatrième.
Mais le pays des Philippines est un grand consommateur de pornographie, mm-hmm. un des plus grands du monde.
Ah,
en
oui?
passant, oui, c'est dans les statistiques. Fait que l'un explique peut-être l'autre. Là.
Ils veulent voir des femmes de chez eux. Ouais. Peut-être
ben voilà.
la voisine.
Ben voilà.
Lesbienne descend d'une position, mais toujours en numéro 4.
Foncièrement populaire.
Il était en numéro 3 l'an okay. passé. Pina, il a gagné deux catégories. Quand même cool, on peut suivre ça comme ça. Mais lesbienne, il y a beaucoup de femmes hétéros qui suivent cette pornographie-là.
Ouais. Ça vient aussi du fait que la pornographie, souvent, les images là, qu'on présente sont plus pour l'homme. Dans la manière d'avoir filmé, dans la manière de présenter, dans la non-sexualité, dans ci, ça, puis les mots du scénario, je veux dire, il n'y a pas personne qui trippe tant que ça sur le scénario. Fait que par le sexe entre femmes, il y a plus de sensualité des fois, ça prend plus de temps, puis il y a plus aussi d'images qui conviennent à la dite femme en s'imaginant d'eux.
Ça prend plus de temps, on a besoin de 30 secondes. Ça.
La visite moyenne sur Pornhub dure combien de temps?
C'est tellement bon, ça.
Moi, je dis, attends un peu, c'est la vidéo dure combien de temps ou la visite?
La visite.
Toi, au moment où tu tapes, tu consommes, ouais, c'est, tu quittes.
Puis, tu sais, la durée de ta visite, tu vas consommer plusieurs extraits de vidéos, ouais. mais la moyenne mondiale, d'après vous okay. autres, d'une visite sur Pornhub ou n'importe quel site de porno?
7 minutes.
Toi, tu dis 7. Un ami m'a dit que les algorithmes sont très, très forts là, sur Pornhub, ce qui fait en sorte qu'il vient qu'à détecter qu'est-ce que toi t'aimes puis il te le propose. Mm-hmm.
Il vient à venir, finalement. Fait que Merci beaucoup.
Ben, je te dirais peut-être 7-8 minutes.
C'est, si on fait le chiffre le plus rond possible, c'est une dizaine de minutes au total. Tout. La plupart des pays, les moyennes sont entre 11 minutes et 8 minutes et demie à peu près, avec une différence de combien de temps entre les hommes et les femmes?
Les femmes, ça doit être 15 minutes.
Non, mais la différence entre les deux?
7.
Je vais aller avec un 5 de différence.
J'ai été surpris de voir qu'il n'y a pas une si grande différence que ça. On parle d'une trentaine de secondes.
Et boy, 30
ouais,
secondes,
ouais,
okay.
ouais. Fait que vous autres aussi, vous êtes rendus ces petites vite.
Ouais, ben le scénario, comme je vous dis, il y a quelqu'un qui tripe bien gros là-dessus.
Commencez à être vite à sa mitaine.
Le pire jour pour consommer de la porn, d'après vous autres?
Le pire étant le jour où il y a moins de consommation?
Exact.
Le lundi.
Le dimanche en famille.
Ni un ni l'autre. C'est le vendredi.
Ah, les gens sont occupés à consommer en temps réel.
La plus grosse journée de porn.
Ah ouais, c'est vendredi.
Le lundi.
C'est le lundi.
C'est dur, la semaine.
C'est parce que c'est l'ennui. Tu commences la semaine.
Ça va chez
le t'as besoin de stimulation, ben oui.
Bref, toujours dans les statistiques Pornhub, l'animation, les dessins animés sont en montée de 15 positions.
Petit bonhomme.
Ça me surprend. Les trans sont en montée de 5 positions. Les okay. real amateurs de 10 positions.
OK.
Les real amateurs. Fait que c'est des amateurs réels, c'est ça?
Oui, c'est comme si toi et ta conjointe vous filmiez pour essayer de faire de l'argent.
C'est fait maison.
Puis, salutations à tous les enseignants du Québec. Teacher! Monte de okay. 11 positions.
I'm hot for teacher!
OK, consentant.
Je rajoute une nuance.
Vas-y.
Il y a une grande partie de la consommation de pornographie qui n'est plus sur Pornhub. Maintenant, tu as les GoFundMe, les OnlyFans.
Les GoFundMe?
Ah, il y en a qui financent à peu près n'importe quoi. Là. Hey, j'ai-tu vu qu'il y a une fille qui a eu 100 relations sexuelles en 24 heures?
Ouais, mais c'est pas la première.
Arrête, là.
À regret.
Mais à regret, finalement, ça de là, c'était pas le fun. Ah ouais!
Ça devait sentir le caoutchouc. Ouf.
Mais c'est, il y en avait une autre, il y a genre 7 ans, qui avait voulu faire ça pour sa fête. Vous en souvenez pas?
Non.
En tout cas.
Mais elle l'avait. Non, mais elle avait pas mené à terme, de mémoire.
OK.
Celle-là, elle l'a faite. Puis là, elle a plus de fun, là. J'sais elle
pas.
Regrette.
Faites
pas ça. Tu sais, je rajoute ça dans ta liste.
Mais GoFundMe, c'est quoi? C'est, la personne crée vraiment un GoFundMe comme les gens, mettons, qui veulent payer des funérailles à des gens proches d'eux puis qui n'avaient pas les moyens ou des assurances par rapport à une maison brûlée puis que ça n'avait pas été couvert.
Ben, tu peux financer un album de musique avec ça. Tu peux financer un site d'orteil aussi, là.
Mais mettons, moi, je me prends un GoFundMe puis je dis en échange, je vous envoie du stock.
Peut-être.
J'ai jamais entendu parler de ça. J'ai jamais vu ça.
Mais tu sais, de façon globale, ce qu'il faut comprendre, c'est que t'as quoi? 70 % de la pornographie qui est plus sur ces sites-là ou à peu près.
Avec la grosse affaire judiciaire là, qui s'est passée puis qui se passe encore du côté de Montréal par rapport à des vidéos qui n'auraient pas nécessairement eu consentement ou des gens qui ont été filmés à leur insu ou des jeunes mineurs, puis toi, en tant que consommateur, tu ne sais pas finalement que c'est vraiment une personne mineure qui est sur ton écran, qui a été peut-être même droguée avant de le faire, puis qu'il y avait du trafic humain là-dedans. qui est encore en cours en passant. Là, c'est très complexe comme situation. Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui ont migré vers d'autres sites où le consentement était assuré?
Ben, les chiffres vont prouver qu'à partir du moment où Pornhub a été obligé de se nettoyer, mm-hmm. entre guillemets, puis étant donné qu'ils ont été pointés du doigt, comment on va dire ça? Ils ont nettoyé plus blanc que blanc. Ils ont fait un méga ménage de tout ce qu'il y avait sur leur plateforme. Il y a beaucoup de gens qui ont migré vers d'autres choses.
Oui. Ouais. À quelle heure que les petits lapins s'activent sur Pornhub? Est-ce que c'est le matin, tôt le matin?
Ouais.
Est-ce que c'est sur l'heure du midi au travail?
C'est quand la bonne femme se couche.
C'est quand la dame se couche?
Oui, la bonne femme se couche.
Toi, ça serait quand? C'est le jour, le soir?
Toute ton équipe hier.
Ah non, non, moi, j'ai pas ce problème-là. On est très ouvert sur notre pornographie, je te l'ai
parce
déjà dit.
Le soir, Denis, tu dis-tu le soir?
Oui, c'est le soir. Ouais.
C'est à 10h que les lapins commencent.
Ouais, ouais, ouais.
Puis c'est à...
10h le soir ou le matin, là?
10h le soir.
22h, ouais.
Puis c'est à 11h, minuit le soir, qu'il y a le plus de petits lapins qui s'activent.
Ils se couchent tard? Ou c'est pour se coucher?
11h, c'est vraiment comme le moment où les lapins sont là.
Ouais.
Quand la bonne femme est couchée.
Il y a une statistique qui est très amusante, puis ils ont appelé ça « When the world come together » pour pointer la date où il y a eu... quand tout le monde vient ensemble, ils ont pointé la date où ils ont eu le plus gros streaming mondial de pornographie, puis je pense que c'est au mois d'août, puis c'est un lundi.
Ah ouais.
Au mois d'août, un lundi. Hey, je suis tellement déchirée parce que, pour vrai, ça touche beaucoup de monde, cette nouvelle-là, mais en même temps, je peux pas croire que je payais pour ce qu'on est en train de faire.
Moi, quand j'étais jeune, il y avait une légende là, qui courait au centre-ville de Québec. Je sais pas si ça s'est ramassé au Saguenay ou dans ton secteur, Pascal, mais on disait que
quoi,
si
dans mon secteur?
Tout le monde à Québec sautait sur ses pieds, ça allait créer un tremblement de terre.
Ouais, j'ai déjà entendu ça.
T'as déjà entendu ça?
Ouais.
Toi, t'avais-tu déjà entendu ça?
Non.
Vous étiez déjà plus évolué à votre époque, mais...
c'est comme sauter d'un ascenseur en chute libre et survivre.
Oui,
là. Mais... Ça marche pas, là.
Mais est-ce que c'est la même chose si tout le monde se petit lapinise?
C'est donc ça, le Big Bang.
C'est exact. Pascal, là, j'aurai besoin d'aide.
Non,
parce que
je sais que tu te sers de moi.
Tu parles bien l'anglais.
Ah, oui, oui.
Les catégories qui ont fait le plus de gains, je ne connais pas ces catégories-là, mais bukkake.
Oh, non, chier.
C'est quoi?
Non, je vais le googler.
Tout le monde en même temps sur une personne.
C'est bukkake. Ouais. OK, ouais. C'est un gangbang.
Non, mais c'est plus un genre de... Tout le monde vient en même temps sur une personne.
OK, c'est un... Ouais. On met le crémage. 125% d'augmentation.
Mais voyons, les...
les Françaises, okay. Où je pense que vous embarquez là-dedans, les filles au Québec, 104% d'augmentation. Les hommes musclés, 51% d'augmentation.
Hey, les gens cherchent.
Le fisting, c'est quoi ça?
Ah, Seigneur!
Ça, c'est... se faire donner un coup de main, qu'on appelle. Un bon coup
un
de
coup
main.
De poing,
un
je bon...
Oui, oui, c'est un... Bref. C'est un uppercut.
Merci beaucoup pour ces traductions-là, les amis. Ça m'a fait vraiment du bien.
J'apprends des choses.
Oui, ouais. Là, tu vas décortiquer tout ça cet après-midi dans le retour avec tes deux reines.
Évidemment.
Oui.
Arrêtez d'écrire donc bien spécialiste, Pascal. Yannick, il va pas tirer ce qu'il veut.
Ben, j'ai regardé Bukkake, puis t'étais carrément dessus.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est drôle, hein? Si on m'avait demandé dans l'entreprise qui ne saurait pas c'est quoi Bukkake, j'aurais dit toi. Puis pourtant,
parce
tu l'as.
Que j'ai pas besoin de dire ça en nombre.
Qu'est-ce que tu fais le soir? Midi 33, on revient. Merci, Denis.
Salut.
À 22h.
Marceau, pour s'il vous plaît, la direction vous remercie. Marceau, le midi.
13h02, on a de la belle visite en studio. D'habitude, on se parle tout le temps sur Zoom parce qu'il est parti à gauche et à droite faire de la chasse et de la pêche, faire des tournages. Il s'amuse, il a du fun, il a du plaisir.
Mais il est venu seul, t'as-tu?
Là, il est venu
as-tu
seul.
As-tu remarqué?
Ouais.
As-tu une peine?
C'est ça. J'ai attendu parce qu'une fois qu'il était rentré dans le studio, je regardais comme avec mon
nez
au treuil à l'extérieur. Je me suis dit, à un moment donné, elle va arriver, Kate. Puis non, elle est toujours pas là.
Je te sens triste, je te sens déçu.
C'est un jour triste, mais c'est pas grave. On va l'accueillir, c'est Martin Bourget qui est président du groupe Aventure Chasse-Pêche. Salut Martin.
Hey, salut vous autres. Hey, juste pour toi, oui. J'y ai demandé à Martin.
Puis qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle dit non, j'y donnerai pas ça.
Oh!
Elle me donnera pas sa présence.
Oh, okay. Non, c'est pas vrai.
J'ai le cœur brisé.
Un des meetings par-dessus la tête. Il faut savoir que quand on n'est pas sur le terrain comme ça, puisqu'on est une semaine sur deux sur le terrain, l'autre à la maison, ben, au bureau, puis on est propriétaire de l'entreprise,
ben oui.
On est en gestion à 16-18 heures par jour administratif. Donc, c'est sûr que des temps comme présentement, avoir Kate en entrevue ou en meeting, c'est excessivement dur, encore plus que moi.
Mais ben, on est content que tu sois là pareil.
Oui.
Ben, je suis content de vous voir, moi. Je suis content, en vrai.
C'est fun de voir en vrai.
Oui.
Depuis la pêche et les poissons dans le fond du lac. Là.
Il faut reprendre ça. Toi, il faut vraiment reprendre ça. Là.
J'aimerais ça. J'aimerais ça qu'il y ait un gros poisson.
Ça peut pas être l'histoire sans fin. Là.
Yannick aimerait ça.
Ouais, l'histoire sans fin. Faut qu'il y ait une phase 2 là-dessus, quelque chose. Là.
Pense encore aux pauvres poissons qui sont tous attachés ensemble dans le fond du lac. Parce que Pascal les a laissés tomber là. Puis ils attendent toujours que Pascal revienne un jour.
Ah, oh, mais là, ils se disent la CV.
Comme plusieurs petits compris, poissons là. De la Grande Allée.
Avant de venir. On m'a dit qu'elle est aux toilettes.
C'est chiant, mais c'est légal.
Avant de venir.
Hey, Martin Bourgeois, on parle du projet de loi C-21, mon ami.
Oui, bien, le projet de loi n'est plus un projet de loi parce qu'il a reçu la sentence royale en 2023.
Donc, c'est la C-21.
Exactement. C'est la loi C-21. Mais on se souviendra dans toute notre verbatim par rapport à C-21 qu'il y a une notion qui a été conservée dans tous les amendements qu'on a mis en place, les fameux G4 et G46 qu'on avait modifiés pour qu'ils soient plus acceptables parce que même des députés libéraux s'y étaient objectés. On avait gardé une définition evergreen. Evergreen, toujours vert, on va s'entendre, un peu comme les épinettes par chez vous, les feuilles tombent pas. Donc, ce qu'on se permettait avec ce caractère evergreen-là, c'était de revisiter les listes d'armes à feu prohibées et d'en ajouter au besoin, compte tenu que les fabricants pourraient modifier les dessins de leurs armes pour réintroduire des armes méchantes et noires sur le marché qui ne sont pas voulues par le lobby anti-armes et par les libéraux. Donc, ça ouvrait la possibilité à, et on le savait que ça planait au-dessus de nous. Mais là, la semaine dernière, juste avant là, je me trompe tout le temps de termes.
L'hommage,
exactement.
Aux victimes de la Polytechnique.
L'hommage aux victimes de la Polytechnique. Un peu comme à tous les ans, il y a eu des rencontres et on est arrivé avec une nouvelle liste de 324 armes bannies, annonçant une deuxième phase qui devrait être vers le mois de février, en théorie, d'un autre à peu près 200 armes, suivant là, toutes les consultations qu'il y a présentement avec la GRC. Et on annonce que lors de cette deuxième phase-là, pour des raisons qui sont évidentes, hein, si les armes sont rendues prohibées, tu ne peux pas te promener avec dans ton véhicule, eh bien, le gouvernement va avoir recours aux services de police pour aller chez les individus chercher les armes. Évidemment, ça lève énormément de grogne, mais en même temps, ce dossier-là est un dossier qui est excessivement mal compris par la population et demande beaucoup d'explications. Les propriétaires légitimes dans ma
mal
feuille,
compris. Puis il y a de l'émotion. Puis quand il y a de l'émotion, des fois, t'es pas rationnel. Je vais te poser une question. Je pense que tout le monde pourrait y répondre, mais je sais que tu vas y répondre toi aussi. Tu sais, les armes de Picturmel, là, ce qu'ils utilisent oui. là, pour tirer du monde en bosse, là, c'est-tu des armes qui ont été acquises correctement de la part des propriétaires, donc des tueurs, ou c'est des armes qui sont illégales, qui sont passées par les frontières entre les États-Unis puis le Canada dans des réserves. Ils ont pris ces armes où?
Il y a deux sources. La première, qui est la majoritaire, là, à raison de 70 % dans les grandes villes comme Toronto, elle est à 90 % quand on est dans le Canada au complet. Lorsqu'on entend les témoins experts qui sont passés au CQ Meeting, ils sont médecins légistes, professeurs de chaires de recherche, directeurs de chaires de recherche, directeurs de police de certaines grandes villes, nous disent que ces armes-là, qui sont retrouvées sur les lieux de méfaits, proviennent de l'autre bord de la frontière, ont été importées illégalement, ou encore ce sont des armes du marché qui ont été volées et criminalisées. Mais il existe une exception et le lobby anti-armes oublie jamais de nous le remettre sur le nez lorsqu'ils vont faire des pauses avec les différents responsables des grandes tueries. Ils vont dire, par exemple, un tel était membre d'un club de tir, un tel était membre d'un club de tir. Et c'est là...
Mais ça, ils jouent avec les mots, là.
Bien, pas tout à fait, Yannick.
Ben oui, ils jouent avec les mots.
Parce que, écoute, ma position à moi, là, quand je vois ça, quand je les vois poster des responsables de tueries qui étaient membres d'un club de tir, etc., je dis, bien justement, arrêtons-nous là. Avant de tenter de mettre des nouvelles lois en place, on a déjà un processus qui est excessivement complexe pour l'attribution, pour recevoir un permis qui me permet d'acheter et de posséder des armes au Canada. C'est un processus administratif qui est plus lourd que se marier ou se divorcer, right? Jusque-là, on s'entend. Si ce système-là est fait adéquatement, la délivrance de permis est contrôlée, les antécédents sont vérifiés et lorsque tu fais une demande de PPA, tu dois inscrire des références que le Bureau du contrôleur des armes à feu va communiquer avec ces gens-là pour vérifier est-ce que monsieur est en bon état de santé mentale, est-ce que, etc. Dernièrement, lors d'un live avec Christian Caisse, on exprimait qu'un de nos collaborateurs avait reçu son PPA sans même que ses références aient été appelées. Là, je suis tombé sur le derrière parce que se sont mis à rentrer des centaines de messages d'utilisateurs qui ont leur PPA en main ou qui ont renouvelé leur PPA et que jamais les références ont été appelées. Donc, moi, là, je dis, Je suis content que Pauly mette ça en ligne, de dire qu'il était membre d'un club de tir, parce que ça m'amène à dire, nous autres, les propriétaires légitimes d'armes à feu, là, ce qu'on demande, avant d'avoir une nouvelle ligne de front sur le plan légal qui interdit les armes, on demande que les systèmes qui sont en place soient efficaces, parce qu'un Bissonnette n'aurait jamais eu d'armes en main.
Exactement. C'est pour ça que je te dis qu'il joue avec les mots, parce que, tu sais, on dit, ouais, mais là, c'est pas tout le temps des armes qui sont passées à la frontière. Alexandre Bissonnette, lui, il s'est procuré des armes à feu de façon tout à fait légale.
Absolument.
Mais si les gens qui étaient autour d'Alexandre Bissonnette, ils n'ont rien à voir avec la tuerie de la mosquée, là, mais si les gens qui étaient autour d'Alexandre Bissonnette avaient fait leur fucking job, c'est-à-dire, ce gars-là ne va pas bien, parce que, tu sais, il travaillait dans une entreprise, Alexandre Bissonnette, oui. Tous les employés qui travaillaient avec disait que ce gars-là, il allait vraiment pas bien, puis il savait qu'il était propriétaire d'armes à feu. Les gens qui étaient autour quotidiennement d'Alexandre Bissonnette, il y a un frère, il y a de la famille, ils savaient qu'Alexandre Bissonnette filait vraiment pas.
Oui.
Il y en a pas un qui a pensé dire à Alexandre, « Alexandre, t'as pas le droit d'avoir des armes quand ça file pas de même. On pourrait-tu juste t'es retiré? » Il y a un processus, là, avec la police.
Oh, oui, absolument.
Mais j'aime ta ligne, justement, de dire, une fois que c'est enregistré, parce que la majorité, sinon tout le monde le fait, là, oui. Je veux dire, quand t'as une arme à feu pour la chasse ou autre, ou le plaisir d'un club de tir ou autre, tu respectes les conditions, tu respectes ce qu'on t'impose. Puis en arrière de ça, tu dis, ben, gars, on me l'impose parce qu'il y en a qui vont avoir des armes à feu, puis qui ne devraient pas en avoir, ils pourraient commettre des gestes si un jour la santé mentale flanche. Moi, je pense que ton point, Martin, il est extrêmement important dans la discussion de dire, eux collaborent, mais c'est tout le temps eux qui ramassent les critiques, qui se font pointer du doigt, qui se font démolir, qui se font presque traiter de criminels.
Absolument.
Tandis qu'ils respectent tout ce qui est mis en place, mais que derrière tout ça, l'administration, l'administratif, le gouvernemental ne fait pas sa job à vérifier ce qui proclame comme étant le pourquoi ils demandent ce genre de banque-là avec des noms. C'est « Nous, on va vérifier. Vous n'avez pas le choix de vous enregistrer. Comme ça, on va vérifier puis on va vous protéger. » Puis ils le font pas, tu sais.
Je reprends même la balle au bon.
Vas-y.
Faut faire attention, puis c'est encore plus pesant que ça. On ne respecte pas ce qui a été mis en place. La communauté des propriétaires légitimes d'armes à feu ont mis en place des systèmes en collaboration avec leurs associations, leurs fédérations, en étant sur des tables de concertation. On s'est doté. Volontairement, on s'est doté de systèmes qui sécurisent le fait de manipuler, de garder à la maison, d'utiliser des armes à feu. On fait plus que suivre les règles. On est la ligne de front là-dedans et nous sommes les premiers. Au moment où est-ce que le gouvernement libéral a commencé à parler de mettre des efforts sur le terrain pour protéger les êtres humains qui sont dans les rues contre la criminalité armée, à dire « Hey, on est là, puis on va aider, on va venir comme témoin expert sur les différents comités consultatifs. Question de vous donner du data, parce que vous avez une lacune en termes de connaissances là-dedans. » Force est de constater que dès les premières rencontres, lorsqu'on s'est présenté à Ottawa, par exemple, Kate et moi, en CQ Meeting, eh bien, on pensait aller donner des données qui allaient être valables pour l'établissement de tout ça. Non, on a passé une heure à se faire discréditer. On a passé une heure à se faire discréditer et à se faire dire, malgré tous les témoins experts qu'on a reçus, qui ont clairement exprimé que les armes possédées par le milieu criminel causent des crimes, les armes possédées par les propriétaires légitimes, et ça, là, allez sur le armes au pluriel, armesafeu.info, là, tous les rapports d'enquête sont là, tous les rapports d'enquête. Lorsqu'on a fermé le registre fédéral des armes à feu, il y a un poste de police de Vancouver qui a calé une enquête criminelle à la grandeur du Canada. Ils ont ressorti l'histoire de la criminalité au Canada dans laquelle les armes légitimement détenues par des propriétaires d'armes à feu sont présents, mais en partie infinidécimales comme objet qui a proféré le crime. Et on va plus loin en disant que la majorité, justement, des criminels qui vont avoir proféré des crimes avec des armes légales, mais sont justement dans le genre de cas qu'on essaye de défendre. Il n'aurait pas dû avoir un permis entre les mains.
C'est qu'ils vous montrent contre eux, au lieu de vous utiliser comme vraiment des outils puis des alliés dans tout ça. Je trouve ça un petit peu tannant. Puis tout ce qui est mis en place pour contrer vos droits, quand vous respectez ce qu'eux vous demandent aussi, va pas être mis en énergie dans tout ce qui est lutte aux crimes et aux ventes d'armes à feu,
voilà.
Sur le dark web, sur les imprimantes là, technologiques
l'imprimante
qui
3D.
Permet de justement... Puis de cibler vraiment ceux qui sont problématiques là-dedans.
Y a-tu eu moins de meurtres dans les rues à Montréal par les gangs de rue commis par armes à feu depuis que la C-21 est arrivée?
je te fais un rapport très, très, très rapide. C'est environ 100 millions par année fiscale d'argent qui est injecté dans ce dossier-là. Présentement, 71 millions dans le programme de rachat avant qu'une seule arme à feu ait été rachetée. Et le bulletin des libéraux là-dedans, c'est 116 % d'augmentation des crimes avec armes à feu. 116 %. Ça, c'est leur bulletin.
Quelqu'un nous écrit, moi, je suis moi-même propriétaire d'armes à feu restreint pour le tir à la cible dans les clubs de tir. Je serais prêt à passer un test psychologique à chaque renouvellement de permis sans problème. Je serais prêt à passer ce test-là. C'est Alex là, qui nous écrit, un auditeur. Mais...
Puis tu sais, là, on fait face exactement au piège dans lequel les libéraux puis le lobby veulent nous envoyer. On est présentement en train de se faire poser des questions par les différents journalistes. Ouais, mais monsieur Bourget, prenez la nouvelle liste là, puis dites-moi quelles armes là-dedans là, vous dérangent ou quelles armes là-dedans sont vraiment faites pour aller à la chasse. Et c'est drette là que les libéraux et que le lobby anti-armes veut que le débat se tienne, alors qu'il n'est pas là. Le débat devrait être, peu importe l'arme, je m'en fous de l'arme, c'est qui la possède? Parce que si je regarde les statistiques, c'est qui la possède? Vous venez de mettre des centaines de millions de dollars pour recueillir du data de professionnels de partout au Canada pour comprendre d'où vient la fuite. Vous l'avez identifié et vous ne l'adressez pas. Là, Leblanc vient d'annoncer, le ministre Leblanc, Dominique Leblanc vient d'annoncer quelques injections d'argent au niveau des services frontaliers, des projections au niveau des services de police.
Et ça, c'est plus de patrouilles au niveau des réserves?
Ben non, c'est ça. Pas encore.
Alors qu'on sait que c'est par là que ça passe.
Absolument, absolument. Là, il y a certaines réserves, on va taire les noms, mais chez lesquelles on peut se rendre, parce qu'on ne veut pas non plus motiver les gens à y aller, chez lesquelles on peut se rendre et avoir à peu près n'importe quoi qui est sur la première liste de 1500 armes à feu, là, après l'OIC, le décret en conseil de 2020. Vous savez, il y a eu les AR-15 et les variants, puis le gel sur les armes de poing, puis il y a eu une liste de 1500 armes qui reflète, selon eux, des armes d'assaut, là, un terme qui n'existe pas encore. Mais toutes ces armes-là sont disponibles sur le marché noir. Là. On n'a pas freiné aux frontières. Nous autres, là, notre point, là, il est très simple. J'aimerais tellement ça, pouvoir s'asseoir en table de concertation avec les gens de Police se souvient, etc., puis dire, on est d'accord, on veut protéger nos petits culs dans les rues, on veut protéger notre monde, nos familles. Est-ce qu'on peut regarder la source et adresser le problème? On a du data de notre côté et on peut... L'action bénévole qui peut être mise en place par les tireurs sportifs, les chasseurs et les collectionneurs d'armes à feu, pourriez être surpris à quel point ces gens-là, pour la protection des êtres humains qu'ils aiment alentour d'eux autres, seraient les premiers sur la ligne de front à mettre en place des moyens. Mais il faut s'asseoir avec ces gens-là et dire, OK, on sait d'où vient le problème, est-ce qu'on peut l'adresser? Parce que là, vous êtes en train de bannir tout ce qui est d'armes à feu et de créer un faux débat de fond. Puis au bout de la ligne, vous protégez des votes, pas des vies. Puis vous protégez des salaires de lobby et non pas des vies. Là. C'est ce qui est en train de se passer. La dernière sortie là, du lobby anti-armes, de police se souvient, littéralement. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Là.
C'est celui de la semaine dernière, là?
Oui. Vous savez, cette semaine même. Vous savez, dans le programme de rachat, il y a toute une notion de récupérer les armes. Puis récupérer les armes, là, c'est pas peu dire. On parle de sécurité publique. Vous voulez parler de sécurité publique? On va parler de sécurité publique. Récupérer les armes, par exemple, à Toronto, Pistol for Pixels, qui est une initiative qui a eu lieu là-bas, où est-ce que quand William Blair, qui est maintenant à la droite de Trudeau, était chef de police, récupérait des armes à feu non voulues dans les résidences, puis il l'échangeait contre un appareil photo, une caméra. Okay. C'était un incitatif qui a très, très bien fonctionné. Mais évidemment, les gens appelaient la police se rendait chez eux pour transporter les armes parce qu'il y a un certain danger. La première option qui avait été présentée dans le programme de rachat canadien des armes à feu, c'était que Post Canada allait transporter toutes les armes à feu. Est-ce que vous savez combien millions d'armes à feu que ça représente?
Ben non!
Évidemment, pour des soucis de sécurité, Post Canada a refusé ça. Alors, cette semaine, Police se souvient, fait une sortie et demande au gouvernement de mettre pression pour obliger Post Canada à manipuler ces armes à feu-là dans le programme de rachat. Là, à la maison, là, écoutez bien, là, ce sont des millions et des millions d'armes à feu. Là, dans le document de Police se souvient, ça me fait toujours sourire jaune parce qu'on dit là-dedans, ben peut-être que Post Canada a peur que les propriétaires légitimes d'armes à feu en furie s'attaquent aux petits commis. Non, attends un peu, là. Amène pas le discours ailleurs. Les propriétaires légitimes d'armes à feu ne veulent rien savoir de voir les armes transportées par Post Canada. Parce que, ouais, mais les colis ne seront pas identifiés. Hey, demain matin, là, si le ministre Leblanc annonce que à partir de la semaine prochaine, les armes se promènent par Post Canada, toute boîte longitudinale qui peut être une arme à feu va être ciblée par les gangs criminalisés. Tes centres de tri sont à risque, tes commis sont à risque, tes bureaux de poste sont à risque, les trucks de Poste Canada sont à risque. Là, là, tu vas injecter des centaines de milliers d'armes dans la criminalité. Comprenez-vous le risque? On ne veut pas ça. C'est là où est-ce qu'on se différencie, c'est à la ligne de front, les propriétaires légitimes d'armes à feu qui demandent des moyens pour protéger les êtres humains. Puis des réquisitions comme ça, de forcer le gouvernement à forcer Poste Canada de transporter les armes, je veux dire, c'est dangereux. C'est dangereux. À la limite, ça devrait être souligné publiquement et juridiquement. Là.
Mais avec la gang de police, je me souviens, là, je veux dire, c'est des émotions. Ça défie toute logique à un moment donné. Là. Ils ont tellement d'émotions par rapport à ce qui s'est passé, et avec raison, qu'à un moment donné, ils sont prêts à aller n'importe où sans nécessairement rester sur la logique.
Et la raison, je la comprends, Yannick.
Ben oui, ben, on la comprend toute. Mais à un moment donné, c'est parce que tu pénalises les gens qui sont honnêtes, les chasseurs, versus les gangsters qui, eux autres, s'ils veulent des armes, ils vont être capables de s'y procurer, puis ça ne sera pas par le marché légal.
Je suis parfaitement sensible à la cause, très, très, très sensible à la cause. Mais est-ce qu'on est au courant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont passé au travers du drame de la Polytechnique qui, à tous les ans, supplient, Police se souvient, d'arrêter
ben oui.
pour qu'ils puissent enfin faire leur deuil? Et il faut comprendre qu'il y a un lobby derrière ça. Il y a un lobby, c'est des sous. Alors, il y a des motivations aussi à garder le dossier vivant là-dedans. La semaine passée, Nathalie Provost a finalement sorti les mots. Elle a fait une entrevue dans laquelle elle a eu à s'exprimer en anglais. Donc, probablement qu'elle a dû... Honnêtement, je respecte beaucoup Nathalie Provost. Ça a été quelqu'un qui, entre autres, a repris Anne-Marie Dussault, qui me faisait déparler. Et elle a fronté Nathalie Dussault Anne-Marie Dussault en disant « Non, c'est toujours bien pas ça que M. Bourget a dit quand même. » Je la respecte énormément là-dedans. Mais la semaine dernière, elle a exposé l'agenda de ces lobbies-là. Elle a dit verbalement en anglais sur armesafeu.info, là, vous allez le voir, ce vidéo-là est là. Elle dit verbalement « Nous, c'est pas les armes à feu criminalisées qui nous dérangent. C'est les armes à feu qui sont dans les mains des propriétaires légitimes d'armes à feu. » Alors, si on revient à la base du dossier, toutes les études pan-canadiennes sur la criminalité placent les armes à feu légitimement détenues par des propriétaires légitimes d'armes à feu comme presque pas présents ou en partie infinidécimale dans les méfaits à ben en bas de beaucoup d'autres objets. Et puis, on annonce que l'agenda réel derrière le discours de Police se souvient, c'est qu'on se fout un peu des armes criminalisées. On veut cibler les propriétaires légitimes d'armes à feu. Vous voyez comment est-ce que les propos sont très nets et clairs, et ça démontre comment le débat est biaisé. Ça et le fait d'adresser des listes d'armes au moment où est-ce qu'on devrait adresser des individus. Un objet, là, ça n'a aucune intention tant qu'un individu ne lui donne pas une intention. Que ce soit un pic, une pelle, un couteau, un... Écoutez, dans les statistiques, les liquides brûlants et corrosifs sont plus élevés en termes, sont plus représentés dans les crimes contre la personne que les armes à feu légitimement détenues par les propriétaires légitimes. Faut choisir notre débat. On voit clairement qu'il y a un choix qui n'est pas de protéger des vies, mais de protéger des votes, qui est très politique. Puis il y a un lobby qui se protège là-dedans parce qu'il y a des gros sous. Alors, ce n'est pas des vies qu'on est en train de protéger. Moi, je crie haut et fort que la communauté des propriétaires légitimes d'armes à feu, non seulement elle veut s'investir dans la protection publique, mais elle s'insurge des échappés. Parce qu'on peut regarder le dossier dans l'ensemble et se dire que du jour 1, où est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient mettre des moyens pour protéger nos gens dans les rues, puis qu'ils ont décidé de tirer complètement à côté en connaissance de cause de la source, bien, le sang qui coule dans les rues présentement, là, il est sur leurs mains.
Ça me fait un peu peur, puis ça me rend triste. Honnêtement, je suis triste de ça parce que je me dis, crime, c'était-tu juste du capital politique au final? En sachant pas trop où aller dans tout ça, mais en se disant, crime, ben, peut-être qu'on a ce filon-là, puis en tirant dessus, on va avoir l'impression d'avoir avancé quelque chose ou d'avoir travaillé en ce sens-là.
Tu vas avoir la preuve de ça dans pas grand temps, et puis ce vidéo-là va être publié sur armesafeu.info. Tu as Bill Blair, au moment où est-ce qu'il était chef de police à Toronto, qui dit de sa bouche, mes officiers de police, quand ils ramassent des armes sur les lieux des méfaits, à 70 à 90%, c'est des armes qui proviennent du milieu criminel. Et on a Bill Blair, William Blair, puis Bill Blair, là, c'est le même gars. Bill, c'est le diminutif de William. Là, okay? Bill Blair, rendu à la droite de Trudeau, dit tout l'inverse. Il faut adresser les armes détenues par des propriétaires légitimes parce qu'ils représentent un défi majeur et n'a pas mis en place de moyens pour enrayer le crime donné. Par exemple, l'opération Centaure, là. Tapez Opération Centaure. Allez voir comment ces gens-là ont remis de criminels sur la droite ligne. On en a des systèmes. On a la frontière limitrophe la plus longue au monde entre deux pays. Tous ces sous-là auraient pu être investis là-dedans. Nous autres, on demande ça, là. Puis des efforts de prévention. Si on parle de détresse psychologique, là, des efforts de prévention. On n'a pas présentement de budget là-dedans. On a désinstitutionnalisé tout le monde qui avait des problèmes et qui avait besoin de support. Puis aujourd'hui, en termes de prévention, Est-ce qu'un jeune, au niveau élémentaire ou au niveau secondaire, sait que s'il y a des doutes sur la santé psychologique de leur oncle qui a des armes à feu, qu'ils peuvent faire un appel et faire une saisie préventive? Personne ne sait ça. Pourquoi?
Ben nous, on le sait parce que tu viens régulièrement et tu nous en parles.
Mais ça, c'est des moyens. Ça, tu peux sauver des vies pour vrai en faisant
l'expérimenter.
Ça.
Exact.
Yes.
Les gens t'aiment, Martin.
Eh oui, les gens l'aiment, Martin. Kate aussi, elle l'aime.
Ouais. Malheureusement chanceux.
Pour toi. Hey, toi et Kate, on te suit comment sur les réseaux sociaux?
Ben, essentiellement, le acpnation.com, c'est la place principale. Sur les réseaux sociaux, évidemment. Ce soir, on est en live, justement. C'est pas le front de la bataille, mais Pat Deck va être avec nous autres. On décortique la liste d'armes pour voir si les armes que vous avez en main sont devenues illégales ou pas. Connectez-vous avec nous autres sur les différents médias sociaux, mais particulièrement sur le acpnation.com à 20h ce soir.
Merci beaucoup. 13h23, vous avez soif de musique. C'est le temps de choisir votre chanson rock de l'année dans le cadre de l'ultime combat des tunes qui va être présenté par Chaloux. Chaque jour en semaine, c'est pas mal le dernier, il y a deux chansons différentes qui vont s'affronter pour la première place. La première place sera annoncée demain dans l'émission de Reg. Allez faire un tour sur nos comptes Facebook et Instagram. Vous allez pouvoir voter. Je vous le dis, là, les deux tunes qui sont en concurrence aujourd'hui, c'est les deux meilleures tunes de l'année. Mais il y en a une qui est ma préférée. C'est The Emptiness Machine de Linkin Park qui est juste hallucinante. La voix de la chanteuse, elle me rentre dedans constamment à chaque fois que ça joue dans ma voiture.
Puis l'autre, influence les gens.
C'est
là.
Sum 41 avec Dopamine que je vous fais entendre à l'instant. Donc, c'est le temps de voter sur page Facebook, page Instagram. Et l'autre, ben, je me gâte. C'est Linkin Park, The Emptiness Machines, que vous allez entendre dans les prochaines secondes.
L'ultime!
11h34. D'après moi, elle est nerveuse de ce qu'elle va me faire faire dans les prochaines secondes. On fait un quiz!
Un quiz?
C'est pas ça que tu voulais
non,
me faire faire?
Non, on n'est pas encore à Lyon, fait la force, là. On n'est pas au cirque.
Lyon, fait la force!
Ah, oh, je suis tellement heureuse. Voyons.
Ben, j'ai quelque chose, par exemple, pour toi avant.
Hein?
Ouais.
Ça, c'est louche. Ça me fait peur, finalement.
J'ai pas un cadeau, j'ai pas d'argent.
Ah, hey! Charrie-moi,
c'est charrie-moi. Le concours passe-temps 3000 pour que les auditeurs puissent remporter le bas de Noël à Marceau. C'est d'une valeur de 750 $. Puis, c'est grâce à Passe-temps 3000 que je peux me permettre de vous donner ça. Passe-temps 3000 sont là depuis 50 ans. On parle d'une immense sélection de jouets, de jeux, de casse-tête, de jeux de société, des jeux de construction, des véhicules téléguidés. Fait que je foule le dessous de votre sapin de Noël cette année. Puis, ce que vous avez à faire, c'est que, avec le mot de passe que je vais vous donner, vous allez directement sur blvd.fm pour courir la chance de gagner tous les jouets qui se trouvent à l'intérieur du bas. Et là, aujourd'hui, je rajoute le robot astronaute qui est programmable. Les enfants en raffolent. Ça vaut 100 $. Et le dévoilement de la famille gagnante, ça va être demain. Ça vaut plus de 750 $ au total. Donc, merci beaucoup à Passe-temps 3000 d'embarquer là-dedans, de rendre ça possible. Leur service est personnalisé. Leurs choix de produits vont vraiment vous impressionner. Puis que dire de Marc? Marc, qui est la vedette, qui est le propriétaire, qui est la mascotte de Passe-temps 3000. Un gros merci, cher ami, de participer à ça avec nous autres. Bon, Pascal!
Ah, je t'ai excité comme une puce, mon Yannick.
J'ai rien fait, hein? Je suis assis de mon bord, j'ai deux mains sur la table.
Non, ça me ferait fuir.
Je suis habillé comme hier.
Ça me ferait fuir comme une coquerelle. Ça serait pas la même chose.
J'ai pris une douche, par exemple.
Ah, ben c'est bien. Mais tu trouves ça respectueux envers ta collègue, étant moi.
J'ai changé de t-shirt. J'ai même jeans, par exemple.
Tu qu'on fasse
jeans?
Le tour de ton hygiène corporelle, Yannick, quand tu brossais tes dents, tu
j'ai
lavais ta raie.
J'ai brossé mes dents à matin.
Et là, j'ai vu aussi que tu t'es fait couper les cheveux, la coupe.
Ben oui.
J'allais dire beau bonhomme, j'ai pas envie de te faire ça.
En fait, j'ai été avec mon Golden Retriever. On avait un 2-for-1 là, chez Animalerie Dino.
Je me tanne pas de ta joke.
10
$. Tu me le dis à chaque fois, mais le 2-for-1 chez Animalerie Dino.
Oui, j'ai dit au gars, coupe militaire. Je pense qu'il a trop pris ça au sérieux.
C'est tellement tanné là, que ça soit ça, ta demande là, oui. Pour avoir l'air de Top Gun, je sais pas quoi. Peu importe. Moi, je t'amène pas là, mais.
J'ai mes Ray-Ban.
Je vais faire un lien. Tu m'écœures.
J'ai acheté mes Ray-Ban.
S'il vous plaît.
C'est pourquoi j'ai acheté mes Ray-Ban.
Avec tes amis, je t'appelle le Top Gun de Wish. Hein?
Exact.
Yeah. Bon, hey, wow!
J'ai acheté des Ray-Ban.
Au Black Friday, Yannick?
Sais-tu pourquoi?
Oh, vas-y, dis-nous.
Je vais te le dire.
Et que ça nous tente.
Je me ramasse au Breathless à Cancun.
Ah, se faire adorer à Cancun avec des Ray-Ban puis ta coupe militaire.
Puis là, ça a l'air que c'est un hôtel à party.
OK.
Fait que là, j'ai acheté des lunettes pour faire le party.
OK.
Mais l'hôtel à côté, c'est un hôtel où. Écoute.
Il y a des gens qui aiment ça, mettre peu de maillot de bain.
J'étais outré quand j'ai appris ça, là, mais ça a l'air que les filles de l'hôtel à côté, okay. C'est du monokini.
Hey, d'après moi, c'était pas un choix. Hein,
fait
ça?
Que là,
pas dans tes considérations de booking.
Surtout pas qui pensent que je les regarde. Fait que j'ai mis déjà acheté des lunettes.
Peux-tu juste les mettre? Je vais voir si elles sont vraiment opaques. J'aimerais ça voir si je vois tes yeux à travers. Hey, qui est fier. Là, la gang, on vient de pogner un sujet avec Marceau M. On parle pas du jeu, il est content. Oui. On teste ses lunettes. Voilà. Est-ce qu'on voit tes yeux? Ah non, tu me niaises qu'elles sont exactement comme celles de Tom Cruise.
Exact. Tom Cruise de Wish.
Tu m'énerves! Regarde-moi. Je vois un peu tes yeux.
Danger Zone. OK, mais je te regarde même pas.
Sache-le.
J'ai les yeux fermés, là.
Oui, mais je vois un peu tes yeux à travers.
OK, je regarde où, là?
Sache-le. Non, mais je vois tes yeux.
Oui, mais je regarde où?
Je sais pas en ce moment. Ben, parce que t'as le reflet de la fenêtre.
C'est ça, l'histoire.
Non.
Fait que quand ils vont arriver avec
leur
pas de maillot, là,
ouais.
Je regarderai même pas. Ils verront pas.
Écoutez-le, écoutez, quel achat, hein? Non, un achat de pervers.
Quand ma blonde me dit là, Yann, je sais pas si tu vas être content, mais il y a un hôtel à côté, qui est juste à côté du Breathless, qui tolère le monokini. Là, j'ai dit, moi, ces places-là, j'haïs ça. Quand est-ce qu'on s'en va, là?
Demain, tu t'en vas. En plus, tu me laisses seul la dernière heure parce que tu vas être bien pressé d'aller
c'est
voir
ça. Pour dire
ça.
À quel point je t'ai fait confiance.
Ah oui, je pense pas que c'est ça. Je pense qu'à quel point t'as le goût de me fuir.
Hey, mais j'ai tellement le goût qu'on en parle parce que c'est rare que tu te mets à être intéressé à ce que je dis, mais cette fois-là, t'avais été intéressé.
Oui.
J'avais parlé des jeux vraiment le fun de questions. Puis tu sais, on jasait ensemble pour
tu
des.
Tu passes ta vie à pas me poser des questions.
Oh, j'aime ça, là. J'en pose. Mais dans un contexte où j'ai pas à les réfléchir, je trouve ça bien le fun. Une fois, de temps en temps, mettre mon cerveau à off, mais.
Ouais.
Être dans une discussion. Puis, je trouve que les dates sont insipides maintenant. Les gens, bon, s'intéresses-tu vraiment aux autres? Je sais pas trop. Il y a des gens qui ont besoin de ce genre de jeu-là. Puis, il y en a qui ont été créés pour le temps des fêtes. Il y en a qui ont été créés pour des réceptions entre amis puis des affaires comme ça. Là, ce qui me fait bien rire, c'est que j'ai la version. Passe-temps 3000, il restait juste cette version-là. Mais sachez qu'ils en reçoivent en début de semaine prochaine, OK? Ça s'appelle Jus du cul.
Le quoi?
Le jus du cul.
Le jeu du cul?
Jus. Si je te mettais à l'endroit,
ah,
c'est...
Ça va m'aider, oui. Jus du cul. Ça
jus du cul,
demain, ouais.
OK. Puis cette version-là, c'est Girls Night. OK, tu vas voir, je trouvais qu'il y avait des bonnes questions à te poser. Puis là, bon, il y a une façon de gagner, là. Mais c'est 16 ans et plus, c'est un jeu de soirée, c'est à partir de 3 joueurs. Puis ça peut jouer... Tu peux jouer 15 minutes comme tu peux jouer une heure, comme tu peux jouer à répétition, OK? C'est que tu poses des questions, puis il faut automatiquement que tu répondes. Il n'y a pas de « Oui, mais ça marche pas, je t'en coupe. » Tu réponds.
Faut que je réponde.
Oui.
Vas-y, je suis prêt.
Pourquoi tu nous filmes?
Je te filme pas.
OK, toi. J'ai eu peur, là. C'était contre mon consentement. Je te pose une question. Est-ce que tu as. J'ai déjà ou je n'ai jamais usé de mes charmes pour qu'on me paye un verre?
Jamais.
Parce que tu es un homme, je gage?
Parce que je suis un homme.
T'as-tu l'impression qu'un jour, t'aurais pu te faire payer un verre par une femme? Il n'y a jamais une femme
qui
t'a
payé un verre.
Ah, ça
m'est déjà arrivé de me faire payer des verres.
Ouais.
Mais c'est pas moi qui l'avais demandé. Ben, c'est rare que c'est une fille qui est ton genre quand ça fait ça.
Non, mais c'est ça, mais t'as-tu usé de tes charmes?
Ben non, pas
t'as-tu regardé?
Ben, c'est peut-être un charme naturel que je connais pas. Hein?
Ah ouais, c'est ça, il se rend pas à moi, mais
j'ai
pense...
répondu à ta question.
OK. Trois de tes réactions qui... OK, c'est ça. Mettons que tu vas dater une fille, OK, puis elle ressemble vraiment pas à ses photos.
Ouais.
Vraiment pas, c'est un catfish, OK?
Ouais.
Imagine trois de tes réactions.
Là, je suis célibataire, là.
C'est exactement ça qu'il faut pas que tu fasses, OK? Mais clairement, t'es célibataire, si t'en vas en date, Yannick, là.
OK, oui.
OK? Imagine-toi, sinon, curieux problème ici, évoqué en onde. Imagine trois de tes réactions si elles ressemblent pas à ces photos.
Non, c'est pas grave.
Trois de tes réactions. Soupes-tu pareil avec?
Oui.
C'est-tu que t'es plate?
Pourquoi?
C'est toi qu'il faut qu'ils les imaginent puis que tu me les dises.
C'est ça. Ben oui, je soupe avec pareil.
Sacramento de cerveau rapetissé,
oui,
là.
Je soupe
réfléchis.
Avec pareil. Elle est peut-être super intéressante puis super intelligente puis elle pose peut-être moins de questions.
Puis il en manque une réaction.
C'était la
t'en rappelles pas?
Je t'en rappelle pas.
Aïe, aïe. OK, trois choses qui te ruinent financièrement tous les mois, Yannick.
Ah, mes enfants.
Jouer avec nous. OK, après?
Les restos.
Les restos.
Ça me ruine.
Les restos.
Ouais, oui.
Depuis quand, là, ça fait 2 ans que je travaille avec toi bientôt.
Ouais.
J'apprends que tu vas au resto et ça
chaque
te
semaine.
Ruine financièrement, toi.
Ben, ça me ruine pas.
Tu
ça
manges des burgers puis de la pizza à longueur.
Oui, mais des fois, la semaine passée, j'ai été au Archibald, ça a coûté 150$.
Hein? Ouais, parce que tu t'es mis à gâter du monde autour de toi, là. Toi, quelqu'un, il a peut-être usé de ses chambres pour t'y payer un verre. C'est une autre affaire. OK, puis il t'en manque une affaire qui te ruine. T'es Ray-Ban de Tom Cruise.
Non, ça, c'est mon cadeau de Noël que je me fais un cadeau de Noël chaque année.
C'est beau, ça. J'aime ça.
Ils sont nice, hein?
Ouais. Non, j'ai pas tes lunettes.
Il était pas en rabais. Et 217
mais
pièces.
T'es vraiment niaiseux parce qu'au Black Friday, il y avait beaucoup de rabais.
Je vais probablement les perdre dans deux semaines, mais tout va bien.
Achète-toi une petite corde. Là.
Bon, fait que c'est quoi, là?
Ben, il te manque une chose que
par
tu
rapport
te ruines.
À... Qui me ruine?
Ben, ça va-tu, le cerveau est en vacances, là?
La bière.
Ouais. OK. T'aurais pas le choix de répondre, mettons qu'on était dans une soirée et t'avais cette carte-là, t'aurais pas le choix de répondre, okay? OK? En couple, pas en couple. Trois raisons d'offrir une poupée gonflable à ta blonde.
Oh, pour rire.
OK.
Pour la surprendre.
Clairement.
Puis pour qu'elle me sacre là, là.
Ça serait une façon de se faire.
Oui.
Sacrer dehors,
oui,
OK.
Oui, avec un peu de compétition, je pense.
OK. Trois comportements d'enfants que t'as encore. Hey, Colin, j'ai pas lu avant de la lire, mais celle-là, je pense qu'on pourrait faire une liste, même les gens qu'on te côtoie.
Quand on touche à mes trucs dans le cabanon, au lieu de me le demander d'avance, mettons que tu cherches un outil, là,
ouais.
Ben demande-moi d'avance, je vais te dire exactement il est où, mais si je rentre dans mon cabanon, puis tout est ouvert, tout est rendu bordélique, tout le système de classement que je m'étais fait est déclassé, ça me ment sacrément, puis ça me rappelle que quand j'étais jeune, j'étais comme ça aussi.
Mais admettons que j'y vais, mais que je fous pas à marre dans le cabanon.
C'est correct.
OK. Puis une autre affaire?
L'autre affaire, j'en ai pas ben ben. Vas-y, voir.
Réponde pour toi?
Vas-y, puis je vais acquiescer si c'est vrai.
Moi, je pense que quand tu te sens mal dans quelque chose, ta première réaction, c'est de te braquer.
Quand je me sens mal dans quelque chose?
Quand il y a une genre de discussion où quelque chose t'est adressé, puis que tu te sens mal, puis qu'il y a peut-être un fond de vérité, tu te braques au début.
Oui, mais j'ai une tolérance, t'as pas idée avant d'avoir cette réaction-là. Ensuite?
OK, mais je pense que ça, c'est un comportement un peu plus... Trois objets insolites qu'on retrouve, mettons, dans ce que tu traînes au quotidien. Tu sais, Denis a une sacoche là, de gars. Là,
Denis a une sacoche?
Ben une sacoche de sac d'ordinateur. Là. Moi, je pense qu'il y a des affaires bizarres là-dedans. Mais
il y a
toi,
une sacoche, Denis?
Ouais, qu'est-ce que tu traînes dans tes poches, dans
rien.
Ta sacoche d'homme? Bon.
J'ai rien dans mes poches. Ben là, j'ai mis Ray-Ban.
OK, oui.
Mon cadeau de Noël.
Faut les traîner partout pour dire qu'on les a achetés.
Oui, il faisait pas clair quand je partais le matin. Trouve ça dommage.
Trois métiers que tu voudrais absolument pas faire.
Des métiers que je voudrais absolument pas faire. Hey, ça, c'est intéressant comme question. Avocat.
Pourquoi?
En raison du doute.
Que tu aurais envers tes clients, même s'ils sont...
Exemple, j'étais un avocat, puis mon idée, c'est de faire respecter les droits de mes clients ou encore faire respecter, mettons, l'avocat de la couronne. C'est une grosse compétition entre avocats, l'avocat de la couronne, avocat. Mettons que j'étais pour la défense au criminel, de me dire que le gars est un putain de salaud, mais de devoir quand même défendre ses droits, ça serait cruel pour moi parce que j'en dormirais jamais.
Je serais pas capable.
Non. Hey, faire libérer un pédophile, mettons.
Juste parce
que j'ai fait respecter ses droits, je serais incapable.
Mmh. Fait qu'avocat de la défense.
Oui, puis même avocat de la couronne, tu sais, tu dois établir les preuves, tu dois poser des questions. Puis des fois, il y a des avocats de la couronne qui gagnent, puis les gens sont injustement déclarés coupables. Je serais pas capable de dormir.
Ah ouais, hein?
Ouais.
C'est bon, ça, les auditeurs, vous pouvez répondre.
Fait qu'avocat, je serais pas capable.
Ouais.
Ingénieur, crissement pas capable.
Mais là,
en raison de mon cerveau, comment il est fait.
Ouais, mais mettons, si tu avais les études, peut-être que tu pourrais le faire.
Non.
OK.
La pas troisième. Tu sais comment tu fais pour savoir qui est ingénieur dans une foule de 3000 personnes?
Vas-y.
Il vient te le dire.
C'est chiant pour les ingénieurs. C'est vraiment chiant pour les ingénieurs. C'est la bague. La bague parle.
Eh oui.
Bon, fait que ça, là, c'est une suggestion de jeu que je pense qui peut être vraiment le fun. Tu vois, on aurait du fun à deux. On aurait du fun avec toute la gang de Boulevard. Vous allez avoir du fun dans votre famille. C'est sûr. Puis même en date, vous allez avoir du fun. Celui-là est un petit peu intense. Là.
Ça vaut combien, ce jeu-là?
Celui-là, c'est le nombre de cartes que j'ai jamais vu autant. C'est 40$. Et t'as plus de 400 cartes là-dedans.
OK. Puis ça, c'est disponible chez Passe-temps 3000.
Passe-temps 3000.
Jus du cul.
J-U-D-U-K-U. Et il y a des versions, des extensions.
Pauvre Marc, j'ai passé à 3000 qui va avoir des clients qui arrivent. Je veux le jus du cul que Marceau a parlé.
Il va le savoir, le PC.
Mais ça vaut la peine pendant le temps des fêtes.
Ouais.
Mais faut-tu que tu joues, mettons, quand ta conjointe est à côté, ça peut-tu créer des problèmes, des malaises, quelque chose
de
genre?
Ça dépend quel genre de personne que t'es. Si t'en es une bonne, je suis pas sûr.
Ouais. Mais admettons, là.
Quoi?
Mettons que toi, là, tu joues à ça avec ton chum. Là.
Oui, oui.
Puis, mettons, sur les cartes, c'est écrit vous avez le choix de trois autres personnes dans votre vie, autres que votre conjointe.
Toi, autour de cette table.
C'est mettons? Sûr, tu pètes une fuse.
Autour de cette table. Qui aimeriez-vous dans votre vie?
Mais garde ça, ce jeu-là, on va rejouer la semaine prochaine.
Hein, OK.
Puis là, c'est moi qui va... La semaine prochaine, je serai pas là. Mais quand on va revenir en janvier. C'est moi qui vais te poser les questions. Je vais te mettre dans l'embarras. OK, yes. OK, yes. Phrase du jour, ne battez pas quelqu'un du RTC, s'il vous plaît. On les aime, nos chauffeurs, nous autres, et c'est vrai. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer un bel après-midi. Je vous retrouve ce soir à 18h. Sinon, ben, Denis s'en vient avec ses grandes dames, Audrey et Véro.
Audrey complètement hangover.
Ouais, je sais pas, ça va être là. Salut, bye-bye.